Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Comment ça va les petits amis Perceval, 92 mois d'abonnement, mon dieu, c'est parti. Merci mon vieux Perceval, ça me fait plaisir. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce stream où nous allons unir la gauche et diviser la droite, ou alors l'inverse, on sait jamais. On sait jamais, c'est ça qui est beau. Il est là le fun. Voilà. Bienvenue. Comment ça va? Merci Krayak. Sur un malentendu. bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Paris? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Paris dans le 18e arrondissement? Enfin, ou pas loin. Ça va, c'est à côté. Paris est un village. Je dis ça parce que ce soir, à 18h30, je serai à la mairie du 18e pour animer une table ronde sur les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Quels enjeux pour notre démocratie? Voilà. Bon, si vous voulez venir, c'est gratuit. C'est à la mairie du 18e arrondissement, dans la salle des mariages de la mairie du 18e. Et je serai avec... deux intervenants, Sophie GL, qui est spécialiste de la sociologie des médias, et Laurent Carilla, qui est médecin psychiatre, spécialiste de l'addictologie. Voilà. Ça va être chouette. Je ne sais pas s'il y aura un pot de l'amitié après. Je ne sais pas s'il y aura à boire. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai pas entendu. C'est quand? C'est aujourd'hui à 18h. 18h30. Est-ce qu'il y aura Monsieur Lejoindre? Il y aura le maire, Monsieur Lejoindre, Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement, qui va faire un mot d'accueil pour la table ronde. Voilà. Et moi, je ne serai que l'humble animateur de ces échanges passionnants. Carilla, c'est mon prof. Ah ouais? Il est comment? Il a l'air chouette. J'ai vu un peu, il a l'air chouette, Laurent Carilla. J'espère que c'est un moulin à parole. Hein. J'espère que c'est un moulin à parole. Hein. Quand moi j'anime une table ronde, j'ai qu'une seule trouille, c'est que mes intervenants, ce soient des gens hyper secs qui parlent pas. Genre, ils répondent en deux mots. Toi, t'es là, tu fais, non mais on a une heure à tenir, là, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, enchaîne. Non mais en général, ça se passe bien, les gens ont des choses à dire, les gens sont intéressants, les chercheurs, les médecins et tout, ils ont toujours des trucs à dire. Yes, il est très chouette. Bon, bah super. Je veux bien si tu m'envoies un Falcon pour venir me chercher chez moi et me ramener ensuite. Ça peut s'arranger sur les crédits de la mairie du 18e arrondissement. Je pense qu'on peut payer ça, ouais. Ouais. Faut que je voie avec Éric Lejoindre s'il y a moyen. De lui rester des crédits en fin d'année. Mes parents font partie des visiteurs invités par la députée de la première circo du Haut-Rhin pour visiter les QAG. Oh, trop bien! Il y aura tes parents dans le public des QAG. Trop bien. Il y a des viewers hein, de temps en temps qui vont dans le public des QAG. Je vous rappelle que c'est public. Hein. C'est ouvert au public. Hein. Vous pouvez aller assister aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est le peuple français, c'est la démocratie, c'est ouvert. Hein. Vous pouvez y aller. C'est joli et tout. En plus, ça a été simplifié. Ça a été simplifié par Yael Braun-Pivet. Donc, c'est directement sur le site internet de l'Assemblée nationale. Vous avez un truc pour vous inscrire et tout. Est-ce qu'on a le droit de gueuler? Négatif. Lorsque vous êtes dans le public, dans les tribunes de l'Assemblée nationale, vous devez suivre les règles qui sont une stricte neutralité dans votre comportement. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de sortir votre téléphone, vous n'avez pas le droit de faire oui de la tête ou non de la tête. Voilà. Pas d'applaudissements, pas de réaction. Hop. Est-ce qu'il y a des goodies? Non, mais il y a une boutique. L'Assemblée nationale, c'est comme les attractions à Disney. Hein. Quand tu sors de l'attraction, t'as une boutique. Je rigole pas, hein, c'est vraiment vrai, hein, y a une boutique. voilà, vous pouvez aller à la boutique de l'Assemblée, vous pouvez acheter des trucs. Voilà. Est-ce que la veste est obligatoire? Non. Non. Non, tu peux venir en pull... On peut aussi regarder la chaîne Twitch de Jean Massier. C'est vivement recommandé par les autorités sanitaires. Tenue correcte exigée. Ça, je sais plus. Alors, tenue correcte, oui, mais qu'est-ce que ça implique? Je suis sûr que tu peux pas venir en bikini, ça c'est certain, mais est-ce que pour autant tu dois forcément avoir une veste, une chemise? Je crois pas, hein. Non, moi j'y étais allé avec mes étudiants, on était en... C'était des étudiants, quoi. Voilà. Non, non, non. Jean t-shirt, ça passe. Je suis sûr que ça passe, jean t-shirt, on s'en fout. Sauf si sur ton t-shirt, il y a écrit des trucs. Si sur ton t-shirt, il y a des messages politiques, des trucs comme ça, t'as pas le droit. Est-ce que le portable est autorisé si c'est pour suivre le live de Jean Massier en même temps? Tu te mets au chat discrètement. Non, 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 non. De mémoire, le portable est interdit. Hein. T'as pas le droit de le sortir de ta poche. T'as des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui veillent au grain et qui te rappellent à l'ordre si tu fais une connerie. Est-ce qu'on peut assister au débat au Sénat? Oui. Oui. Alors, comment ça marche? Je sais, peut-être sur le site du Sénat, ou alors faut voir avec les sénateurs directement. Mais oui, tu peux assister au débat du Sénat. Oui, c'est possible. C'est fort d'interdire les messages politiques dans l'enceinte de la vie politique française. Ouais, non, mais vous n'êtes pas élu. Non, non, mais attends, c'est important, on rigole, mais les seuls, les personnes qui sont élues par le peuple ont la possibilité de s'exprimer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est la sacralité de l'élection, ce qu'on appelle d'ailleurs l'espace sacré, ça s'appelle comment? Je sais plus. Seuls les députés ont le droit de rentrer dans. Seuls les députés élus ont le droit de rentrer dans l'espace de l'hémicycle avec les bancs, etc. Le périmètre sacré, merci Perceval. C'est le périmètre sacré, c'est le nom que l'on donne à tout un espace dans lequel seuls les députés peuvent accéder et certains fonctionnaires de la séance. Les huissiers notamment qui ont le droit de rentrer aussi. Même le président de la République n'a pas à s'exprimer au Parlement. Le président de la République n'a pas à s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Il a ce qu'on appelle un droit de message, c'est-à-dire que le président de la République peut faire lire un message par le Premier ministre à l'attention des députés, mais il ne peut pas être personnellement, physiquement présent dans l'hémicycle. Et ensuite, il y a une deuxième possibilité dans la Constitution, c'est le Congrès du Parlement à Versailles. Merci LT. Où le président de la République a la possibilité de venir prononcer un discours qui est suivi d'un débat. Voilà. Donc si d'aventure, vous êtes président de la République en exercice, déjà, tu pourrais lâcher un sub, bien la moindre des choses, vous n'avez pas le droit, je vous informe, vous n'avez pas le droit d'aller assister aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Pour tous les autres, vous avez le droit. Ils ont fait quoi les huissiers de l'Assemblée nationale pour être huissiers? Ça a l'air giga compliqué. Ça l'est. Ça l'est, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale ont passé un concours interne à l'Assemblée nationale. Il y a quelques postes qui sont ouverts chaque année au recrutement et le concours est giga difficile. En tout cas, l'Assemblée nationale s'enorgueillit de faire une petite compétition de quéquette avec le Sénat sur qui a le concours d'accès le plus dur. Et je vous confirme, c'est dur. C'est du droit constitutionnel, du droit public, des règles budgétaires, fonctionnement des assemblées, règlement intérieur de l'assemblée. Il faut être un turbo abonné à ma chaîne depuis longtemps pour pouvoir prétendre à réussir le concours d'entrée. C'est quoi la démarche du coup pour aller voir les questions au gouvernement? C'est pas open bar, je suppose. Si, si, c'est relativement open bar. Alors, il y avait une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait une époque où tu pouvais te présenter physiquement, le jour J, à l'Assemblée nationale, et s'il restait des places qui n'avaient pas déjà été attribuées par des invitations, alors les portes étaient ouvertes. Tu passais les contrôles de sécurité, etc., et puis tu pouvais aller assister. Est-ce que ça existe encore? Ça, je ne sais pas. Et sinon, c'est directement sur le site internet de l'Assemblée nationale. Ils ont complètement modernisé le truc et maintenant tu as un onglet visiter l'Assemblée, comment s'y rendre, etc. Machin. Tu cliques, tu prends ta date, tu t'inscris. Faut venir avec une carte d'identité, évidemment, valide. Il faut s'inscrire en ligne et voilà. Donc c'est plus simple qu'avant. Petite question, si les questions au gouvernement sont diffusées à la TV, le président peut quand même les voir finalement? Oui, et les questions au gouvernement sont également diffusées sur Twitch. Donc le président regarde les questions au gouvernement sur ma chaîne chaque semaine pour se tenir un peu au courant de ce qui se dit à l'Assemblée, tout ça. Sous la Convention en 1793, le peuple s'exprimait depuis les places allouées au public et influençait les votes. Ouais, exactement. Ça a laissé un mauvais souvenir, pour des raisons qu'on imagine bien. Vous imaginez 200 citoyens en train de gueuler sur les députés pour les forcer à voter d'une manière ou d'une autre. C'est pas ouf, démocratiquement parlant, c'est pas dingue. Hein, on va foutre la paix aux députés, on va les laisser... Là, on parle de l'Assemblée. Est-ce qu'on peut assister ailleurs, comme les commissions? Non, les commissions ne sont pas ouvertes au public. Il n'y a pas de place. Les salles de commission sont toutes petites. Il n'y a pas de place. Donc, tu peux les suivre sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Elles ne sont ouvertes qu'aux députés, aux collaborateurs parlementaires, aux fonctionnaires de l'Assemblée. C'est tout. Et même pour les collaborateurs, il n'y a pas toujours assez de place. Hein. Donc... Donc voilà quoi. Il y a les visites grâce aux députés qui peut affréter un car pour aller visiter l'Assemblée. J'avais fait ça avec René Dosière. Ah ouais, il avait carrément mis un car à disposition. Oui, c'est possible. Il y a des députés, à peu près tous les députés organisent des visites de l'Assemblée nationale à destination des citoyens de leur circonscription. Ils les invitent à l'Assemblée, ils font une visite de groupe, ils leur montrent tout, ils répondent à leurs questions, ils boivent un verre, etc. C'est, voilà. Je trouve ça très bien, d'ailleurs. Donc, si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, soit vous passez par le site internet de l'Assemblée, vous vous inscrivez et vous y allez, soit vous vous rapprochez de votre député, qui peut aussi vous donner ce qu'on appelle un billet de séance, c'est-à-dire une invitation nominative. Est-ce que tu peux aller à l'Assemblée même s'il y a des votes de motion de censure ou autre? Oui, tu peux. Par contre, on ne va pas se mentir, ça fait partie des séances de l'Assemblée qui sont les plus recherchées, les plus demandées. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de gens qui veulent assister. Ce n'est pas les plus faciles pour avoir une place. Par contre, si vous voulez aller assister à la séance de, 23h, sur les discussions du budget de la sécurité sociale, sur les indemnités journalières des gardes de nuit, là, il y a de la place. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, il n'y a pas grand monde dans les tribunes non plus. Voilà. J'ai organisé ça quand j'étais collab. C'est un peu compliqué à encadrer. Une fois, j'ai perdu un vieux dans l'Assemblée nationale, on l'a cherché partout. J'avoue, ça doit être un cauchemar. Tu les comptes, tu fais putain, il m'en manque un. C'est qui? C'est René? Mais il est où René? Mais vous l'avez vu? Vous l'avez vu quand la dernière fois? Il est où? On a perdu René. Et René, il est perdu dans les couloirs de l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est compliqué. Hein. L'Assemblée, les couloirs, c'est compliqué. Hein. Tu peux te perdre très très vite. Tu peux finir loin. j'imagine. C'est marrant comme anecdote. On avait organisé une visite de groupe, est-ce qu'on n'avait pas perdu un viewer à la fin? Alors ça, effectivement, Perceval s'en souvient. Perceval, c'est la mémoire de cette chaîne. On avait fait une visite de groupe avec la communauté. Ça avait très très bien marché, on était une cinquantaine et tout, c'était trop de la balle. Après, on était allé boire des coups sur les quais, c'était trop bien. Est-ce qu'on avait perdu un viewer? Je crois pas, non. J'en ai pas le souvenir. Peut-être il est mort. Peut-être il est devenu député, je sais pas. C'est très grand, l'Assemblée nationale. C'est plus mal foutu que grand. Ça reste grand, c'est un grand bâtiment. Il y a beaucoup de salles de réunion, beaucoup de bureaux, beaucoup de machins. Il y a l'hémicycle, etc. Enfin, d'ailleurs, l'hémicycle, c'est tout petit hein, par rapport à la taille gigantesque de l'Assemblée. T'as l'hôtel de Lassay à côté, qui est très grand aussi pour la présidence de l'Assemblée nationale. T'as la Questure. T'as d'autres bâtiments dans le quartier. Parce qu'il n'y a pas que le bâtiment de l'Assemblée nationale. Hein. Il y a d'autres bâtiments dans le quartier. Donc oui, non, ça peut faire grand et tu peux te paumer vite. Hein. Moi, j'imaginais qu'il y avait 4-5 bureaux, la buvette et l'hémicycle. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Beaucoup, 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 beaucoup plus de choses que ça. Il y a plein de salles de réunion, des salles de commission, il y a des bureaux de députés. Il y en a beaucoup des bureaux de députés, mais ils sont dans les autres immeubles aussi. Les bureaux, les collaborateurs, les bureaux des fonctionnaires, les différents services, etc. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance? C'est une bonne question, j'en sais rien. Est-ce que le jour même tu peux réserver? Peut-être possible, hein, s'il reste des places. Ça, faut regarder sur le site internet de l'Assemblée, tu verras le truc pour réserver sa place. Est-ce qu'il y a le bureau de tabac détaxé encore? J'ai jamais vu de bureau de tabac à l'Assemblée nationale. Il y a un tabac dans le quartier un peu plus loin, je vois très bien lequel c'est celui dans lequel tous les députés vont acheter leur clope. Pardon, vont acheter leur clope. Est-ce que c'est payant? Visiter l'Assemblée? Non. Ah non, 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 certainement pas. Ah non, 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 non. Non. Démocratie, transparence, peuple français, tout ça, non, non, c'est pas payant. Est-ce que chaque député a un bureau? Oui. Chaque député a un bureau. Enfin, c'est surtout deux pièces en général, pour pouvoir y mettre aussi ses collaborateurs parlementaires qui bossent avec lui. C'est pas toujours très grand, hein, les bureaux des députés, des fois c'est un peu des cagibis, quoi. Est-ce que c'est autorisé aux étrangers? C'est une très bonne question, j'en sais rien. Visiblement pas. Ah ouais, visiblement pas selon le site. Ou alors avec ton passeport, peut-être. Est-ce qu'on demande nos papiers à l'entrée de l'Assemblée nationale? Oui. Oui, il y a un contrôle de sécurité. Tu passes par un portique de sécurité avec un rayon X, machin. Et il y a un contrôle d'identité pour valider ton inscription, tout simplement. Et il faut une pièce d'identité. Est-ce qu'on peut faire du bruit quand on n'est pas content? Non, c'est interdit. Strictement interdit quand vous assistez à la séance depuis les tribunes. Tous les visiteurs mineurs et majeurs doivent communiquer à l'avance leur identité, nom, prénom, date et lieu de naissance. Important, les visites se faisant sous réserve de l'ordre du jour de l'Assemblée. Merci, paf avec. Et des nécessités de sécurité, seul le message de confirmation de votre visite, qui peut intervenir jusqu'à quelques jours avant votre demande, vaut accès au Palais Bourbon. Une tenue correcte, adaptée à la dignité des lieux, est exigée. Il faut s'adapter à la dignité des lieux. Bon, moi j'y vais en jean t-shirt, hein. Franchement. Le Sénat, c'est un autre bâtiment? Complètement, oui, le Sénat, c'est dans un autre arrondissement de Paris. C'est ailleurs. Le Sénat, c'est le Palais du Luxembourg, c'est encore autre chose. Donc s'habiller en Louis XIV, c'est mort. Le connard qui vient en Louis XVI, tu sais. Bien poudré et tout, avec la perruque et tout. Avec sa canne. Gente dame. Non, pas de cosplay. Non mais en vrai, on rigole, on rigole, mais n'hésitez pas à y aller. Hein. Si vous êtes de passage à Paris à l'occasion avec des potes ou avec la famille, etc., ça peut faire partie de votre programme du week-end d'aller visiter l'Assemblée nationale. C'est un beau bâtiment, c'est très joli, quasiment un musée même d'ailleurs. Et il y a plein de trucs à apprendre et c'est sympa. Et je me souviens quand on l'avait visité avec la communauté, on avait fait la visite de groupe, donc on avait réservé pour un groupe. Et la visite, elle commençait par une petite salle de projection, une espèce de mini-cinéma qui est au sous-sol, avec un espèce de film rincé, sorti des années 90. une vidéo pourrave qui te dit le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et vraiment, t'avais toute la commune qui était en mode oh, mais on sait. T'es trop chiant. Vas-y, c'est bon. Je sais pas s'il y a toujours ce film cringe. Cette vidéo, oui, dans la salle de projection. Ouais, dans la salle de projection. Est-ce qu'elle existe toujours? Ou est-ce qu'ils l'ont mise à jour? Ou alors, l'Assemblée nationale, vous voulez qu'on vous en fasse une nouvelle version de cette vidéo? On peut réunir un petit budget, on peut vous faire une nouvelle vidéo un peu plus 2025, quoi. Moi, je propose, hein, moi, je suis là pour aider. Hein, moi, je suis là pour aider. Hein. Est-ce que tu pourrais refaire une visite guidée avec la commu? Oui, on pourrait organiser ça à l'occasion, ouais. On pourrait imaginer. Avec une musique de chronomusique, évidemment. Évidemment. Imagine, il te contacte premier degré. Non mais l'Assemblée nationale, contactez-moi si vous voulez qu'on fasse des trucs. Ça fait 10 ans que je fais des trucs sur l'Assemblée nationale, on s'est jamais parlé. Ça vous dirait pas un jour qu'on se réunisse dans un bureau et qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble? Je sais pas. Ils ont jamais été très très chauds, l'Assemblée nationale, sur tout ce qui est innovation, démocratie, jeunesse, numérique, tout ça. Très conservateur comme administration, l'Assemblée nationale. En plus, comme je refuse d'inviter l'extrême droite, ils vont pas pouvoir bosser avec moi. Ils vont faire comme LCP, ils vont faire « Ah ben non, Jean-Massi, on peut pas. » Donc ouais, bon. C'est pas grave, hein. Je continuerai. Est-ce que c'est commun de croiser des députés durant la visite? Ça dépend quel jour t'y vas, mais oui. Si t'y vas pendant une séance, oui, t'as des chances de croiser dans les couloirs des députés, hein. Ils vont, ils viennent, ils vont de leur bureau. Tu passes par la salle des quatre colonnes et tout. Alors, peut-être pas au moment où il y a le plus de monde. Je crois que les visites de groupe, en tout cas, sont organisées à des horaires spécifiques où il y a moins de monde, c'est normal. Je peux voir pour te réserver un créneau de visite avec mes anciens collègues du cabinet. Bah, c'est très sympa de ta part. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. On est détente. Ils n'ont jamais été très chauds, l'Assemblée nationale, pour tout ce qui est démocratie, c'est dans la boîte. Mais non, mais... C'était François de Rugy, quand il avait été élu président de l'Assemblée nationale, qui avait lancé un cycle de groupes de travail transpartisans, de réflexion sur la modernisation de l'Assemblée nationale et de ses pratiques et de sa communication. Voilà, un truc participatif avec des citoyens, des associations, machin. J'avais été auditionné, moi, en commission, à l'Assemblée nationale, parce que j'étais déjà sur Twitch à l'époque. Et c'était Elsa Faucillon, tiens, je me souviens, la députée communiste qui présidait le groupe de travail. Et dans la première lettre de cadrage du processus de François de Rugy, il y avait la remise à plat des méthodes de communication de l'Assemblée nationale. Et dans la deuxième version de la lettre de cadrage, il n'y avait plus la discussion sur la communication parce que c'était une remise en question d'LCP. Or, on ne peut pas remettre en question LCP à l'Assemblée nationale, c'est interdit. C'est un espèce de truc, c'est sacro-saint, c'est on touche pas. Bon. Donc on n'avait pas pu discuter de ça. Et la montagne avait accouché d'une souris, ils avaient rendu un rapport à la fin dans lequel ils disaient « Ouais, l'Assemblée nationale devrait créer une chaîne YouTube. » On en est là. D'accord. Okay, tout ça pour ça. On repassera. LCP égale... LCP, c'est la chaîne parlementaire. C'est une chaîne de télévision diffusée sur la TNT qui appartient à 100% à l'Assemblée nationale et qui est cousine de Public Sénat, qui est son équivalent au Sénat. LCP et Public Sénat partagent le même canal de diffusion TNT, mais ce sont bien deux chaînes différentes. Ça a été créé en l'an 2000. Ça a été créé en l'an 2000. Bah, c'est la gauche, hein, que je vous dise, c'est les socialistes. Hein. À l'époque, c'était moderne. Voilà. Avoir une chaîne de télévision quand on est une chambre parlementaire, c'était le top de la modernité, de la transparence et de l'accès des citoyens à la vie démocratique, etc. Bon, entre-temps, il y a un truc qui est apparu qui s'appelle Internet, qui a légèrement changé la donne dans le paysage. Mais l'Assemblée nationale conserve sa chaîne de télévision. La télé, c'est l'écran pour jouer à la console. Oui, c'est ça. La télé, c'est l'écran pour jouer à la console, sur lequel les personnes âgées regardent des programmes, qu'on appelle les chaînes de télévision. Y a une erreur dans le titre. Les questions d'actualité au gouvernement. Ah ouais, non, t'as raison. Merci. Voilà. Corrigé. Les docus de LCP sont très intéressants. Je trouve ça terrible pour une chaîne de télévision d'être connue principalement pour ses documentaires. Mais ouais. Est-ce que tout le monde peut diffuser les débats à l'Assemblée ? Oui, les débats dans les chambres parlementaires sont libres de droit, conformément au code de la propriété intellectuelle. Vous apprendrez d'ailleurs que c'est également le cas pour les cérémonies militaires, qui sont libres de droit. Ça vous embouche un coin. Hein. T'as pas travaillé avec LCP ou Public Sénat ? Si, j'ai travaillé avec Public Sénat. J'ai produit une émission pour Public Sénat pendant 4 ans, sur Twitch, qui s'appelait Sénat Stream. Questions aux sénateurs, où le chat posait des questions aux sénateurs. On recevait un sénateur chaque semaine, après la séance des questions au gouvernement, qui venait en plateau sur Twitch pour répondre à vos questions. On faisait des interviews portraits. On découvrait un sénateur chaque semaine. C'est toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne, sur le site de Public Sénat, je crois. Il y a même GG. Gérard Larcher, qu'on a reçu, évidemment, Gérard Larcher. Qu'est-ce qu'il était fort. Oh, Gérard Larcher. Non, mais derrière son air débonnaire, on a l'impression que machin. Gérard Larcher, il n'est pas président du Sénat pour rien. Il n'a pas été élu 2 fois président du Sénat pour rien. Il est d'une habileté politique incroyable. Il esquivait mes questions magnifiquement bien. Il pouvait faire preuve d'humour et balancer des piques très bien sentis envers tel ou tel responsable politique. Et une seconde après, il se retransformait en président du Sénat avec une stature très institutionnelle, respectueuse des uns et des autres. Enfin, j'étais en mode « Waouh, putain, l'anguille !» Oh, l'anguille, il est fort. Ah ouais. Il se livrait, donc on a un peu parlé de lui, de son passé, de son parcours en tant que vétérinaire sportif, etc. Il m'a raconté un peu son histoire, machin, et puis ensuite il enchaînait sans problème sur des débats hyper techniques sur l'actualité politique et tout. Vétérinaire sportif, il soignait les chevaux de course. Absolument, Gérard Larcher a été l'un des vétérinaires de l'équipe de France d'équitation des Jeux Olympiques de 1978, je crois. Attention, archive de l'INA, mesdames et messieurs, je vais encore me faire strike par l'INA.
84. Reste le plus dur, le cross, le vétérinaire vérifie l'état du cheval. Jusque-là, avec Olivier Depagne, tenant du titre de champion d'Europe, la France est dans les 4 ou 5 premiers.
Qu'est-ce que vous avez vérifié là
sur... On a vérifié le rythme cardiaque.
Oui. Il est de combien?
Il est actuellement de 84 à l'arrivée. Nous reprendrons dans 5 minutes pour voir la capacité de récupération. On a gardé sa capacité musculaire aussi. Et maintenant, on regarde la régularité des allures. Au pas et au trot, c'est bon.
84. Reste le plus dur.
Mesdames et messieurs, Gérard Larcher, vétérinaire équin. En 1977. Donc voilà. Donc on avait parlé de ça et tout, on avait parlé de son truc et tout. Je lui avais posé des questions sous forme de quiz, enfin pas de quiz mais de. Alors vous connaissez un peu parce qu'il était spécialiste des chiens aussi, des chiens de chasse notamment. J'ai posé des questions sur les races de chiens de chasse. Il connaissait tout par cœur encore aujourd'hui. Alors t'inquiète, tu me prendras pas. Tu me prendras pas sur des questions veto, ok? J'étais en mode, waouh, la vache. Hyper impliqué par son métier et tout. Non, non, mais ok. Bon, voilà, Gérard Larcher. Je me rappelle que tu disais qu'il lisait grave le chat aussi. Il lisait grave le chat. Moi, je recevais des sénateurs, je les installais dans un canapé. Moi, j'étais sur un fauteuil à côté. Et en face, il y avait une télé sur laquelle on avait le retour du stream et donc le chat qui défilait. Et au moment où avec le sénateur ou la sénatrice, on rentrait dans le studio, je présentais les techniciens, etc. Puis je leur disais, là, vous avez l'écran avec le retour et vous verrez sur le côté, il y a des messages qui défilent, c'est le chat, c'est le côté interactif de l'émission, les internautes peuvent interagir, machin. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de le lire, contentez-vous de répondre à mes questions, parce qu'il y en a que ça peut beaucoup perturber, quoi. Et Gérard Larcher, il était sur le canapé, au moment où je lui dis, là, il y a le chat qui défile et tout, il a fait, ah bon? Et il est resté bloqué comme ça sur le chat qui défile. Et pendant toute l'émission, il me répondait à mes questions, mais il regardait le chat. Il avait conscience que les gens, ils étaient là. C'est pas moi, les gens. Moi, je suis l'intervieweur. Les gens, les vrais gens, ils sont là. Et donc, lui, il était en mode, non, non, mais moi, je parle aux gens. Hein. Donc, il regardait le chat défiler et tout. Je sais pas s'il lisait beaucoup ou s'il remarquait des questions, mais. Comment tu passes de veto à sénateur? Eh ben, va regarder l'interview, tu verras, il a tout un parcours politique incroyable, hein, Gérard Larcher, élu local, machin, il a fait toute sa carrière dans la droite gaulliste. Il a fini sénateur, puis président du Sénat, quoi. On sent que tu apprécies le personnage. Bah, c'est pas une appréciation personnelle ou politique, c'est juste que je reconnais les qualités du bonhomme, quoi. Beaucoup se moquent de Larcher, mais t'es pas président du Sénat sans être un bon politique. Ah, mais c'est ce que je vous disais au début, hein, c'est que moi j'ai été bluffé par Gérard Larcher quand je l'ai interviewé, vraiment. J'ai vraiment été bluffé, je me suis dit, putain, ok, le mec est bon. Clairement, le mec est bon. Il est un niveau au-dessus du sénateur moyen. tu sens que là-haut, ça turbine très très fort et ça percute vite. Ouais. Tu t'attendais à quoi? Bah, j'en sais rien. En fait, tu peux te laisser berner par un présupposé que tu as du Sénat, comme quoi le Sénat c'est toujours un peu à côté, un peu con, un peu. Enfin, tu vois, tu peux vite te laisser abattre avec ça. Le physique de Gérard Larcher peut te laisser croire que le mec il est un peu débonnaire, un peu à côté de ses pompes. T'en sais rien, tu le connais pas. Tu dis ouais, il m'a pas l'air d'être très fut-fut. Eh bah, détrompe-toi, mon vieux. Il est. Oh putain. On peut retrouver l'interview quelque part. Je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site internet de Public Sénat. C'est une vieille émission que je faisais il y a quelques années pour Public Sénat. Il faut que vous alliez fouiller sur le site de Public Sénat pour voir si l'interview est toujours dispo. J'ai pas trouvé la vidéo. Merde. Ah, elle a peut-être disparu, hein, c'est possible. Tous les épisodes sont pas dispo, en plus, c'est un peu le bordel. Sur Dailymotion. Ah bon? C'est possible que ce soit sur Dailymotion. Je crois qu'à l'époque, Public Sénat utilisait Dailymotion pour héberger ses vidéos. Donc c'est possible. Je pense pas qu'on se moque de Larcher pour sa politique, mais pour le côté fastueux, il a toujours une table bien remplie. Ça, c'est pas vrai. Enfin, il n'a pas particulièrement une table bien remplie, c'est juste qu'il est gros. Hein. Enfin, il y a un moment, les rapports entre Gérard Larcher et la bouffe sont pas liés spécifiquement à la bouffe du Sénat. Hein. C'est lié à son physique. où les gens en déduisent qu'il doit bien bouffer. Le fauteuil à 40 000 euros, ça énerve un peu les gens quand on sait les difficultés qu'ont certains Français. Ouais, ça, je comprends bien, mais enfin, je ne suis pas un défenseur du Sénat, hein, ça n'a jamais été ma ligne, mais sur le fauteuil de Gérard Larcher, où tout le monde en a fait des caisses sur le prix de la rénovation, je rappelle que le palais du Luxembourg est un palais de la République. Et que dans tous les palais de la République, les rénovations, les travaux de rénovation coûtent cher. Ça coûte cher de faire intervenir des artisans spécialisés avec les bâtiments de France, les autorisations qu'il faut, etc., pour faire passer des câbles dans les murs, pour renouveler du mobilier, pour mettre des chiottes. ça coûte cher. Les fauteuils du Sénat ne sont pas des fauteuils IKEA. Ce sont des fauteuils d'époque, ce sont des fauteuils particuliers, ce sont des fauteuils qui sont faits par des artisans spécialisés, avec un savoir-faire spécifique, c'est du patrimoine. C'est comme le Louvre, c'est comme Notre-Dame, c'est du patrimoine national. Ça coûte cher. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut 40 000 euros ? J'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialiste dans la réfection des fauteuils d'époque, je ne sais pas. Donc, que Gérard Larcher... Enfin, évidemment, c'est Gérard Larcher qui est assis dessus, donc c'est lui qui s'en prend plein la gueule. Si le Sénat était à gauche, ça coûterait aussi cher hein, de refaire le fauteuil du président. Est-ce qu'il faut qu'on pose ses fesses sur du patrimoine tous les jours ? Ben ça, c'est une bonne question, mais c'est une question philosophique et politique. La République doit-elle habiter les plus beaux bâtiments du pays ? Ou alors, est-ce que ça doit être réservé à des fonds d'investissement privés ? C'est une bonne question. Est-ce que l'État doit habiter dans les plus beaux bâtiments, dans les centres-villes ? Est-ce que les mairies doivent rester dans les centres-villes ? Est-ce que les préfectures doivent rester des beaux bâtiments dans les grandes villes, dans les préfectures de département ? C'est une question. Si c'est une pièce de musée, est-ce que ça doit être utilisé tous les jours ? Mais c'est vivant ! Le palais du Luxembourg, le palais du Bourbon, Notre-Dame de Paris, enfin, je veux dire, ce sont des bâtiments vivants. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette dans du formol les vieux bâtiments. C'est des bâtiments qui servent tous les jours. Les tribunaux, les palais de justice, etc. Enfin, je veux dire, il y a des procès, il se passe des trucs. Donc, Certes, mais les fauteuils. J'en sais rien. Si c'est une question de continuité du service, c'est une question de continuité de l'institution républicaine. Vous savez, le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, qu'on appelle le perchoir, le petit bureau sur lequel elle est, et sachez-le pas, c'est un bureau d'époque de 1789. Il date de la Révolution française. Et pourquoi on le garde, et pourquoi on l'utilise tous les jours, et pourquoi elle met ses mains dessus, etc. Parce qu'on veut continuer la République. C'est un tout. Voilà. Son fauteuil aussi, d'ailleurs, je crois, le fauteuil de la présidente, il paraît qu'il est super inconfortable en plus. C'est un fauteuil historique qui a servi à présider des séances des différentes assemblées nationales depuis plus d'un siècle. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut le remplacer par un bureau IKEA ? Peut-être. Proposez-le, allez-y. Le palais de l'Élysée, c'est pareil. Le bureau du ministre de l'Éducation nationale, c'est le bureau de Jean Zay. C'est Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, qui a fait sortir des stocks du ministère, le bureau, de Jean Zay en disant « Vous me le mettez dans mon bureau. » Et ça doit rester le bureau du ministre de l'Éducation nationale. On va se mettre dans la filiation de Jean Zay. Ils peuvent pas utiliser ces bâtiments comme musée sur l'histoire de notre pays. Mais ils vivent ces bâtiments. Enfin, encore une fois, pourquoi mettre dans du feu ? Vous voudriez qu'il n'y ait plus de messe à Notre-Dame de Paris ? Parce que c'est un bâtiment d'époque. Il faudrait que ça devienne un musée ? Ben non, en fait. Enfin, le bâtiment, il sert, il est utile. Puis ce sont des lieux chargés d'histoire et de présent. Donc, il faut que ça continue. Moi, je trouve ça très bien qu'on continue à utiliser des bâtiments historiques qui servent à ça, qui ont toujours servi à ça. Moi, ça me va très bien. Alors, c'est pas toujours les plus adaptés. Hein. Là, pour le coup, il paraît que le palais de l'Élysée, c'est un peu rincé comme bâtiment. Enfin, moi, de ce que j'ai visité du palais de l'Élysée, c'est effectivement pas ouf. Mais il paraît que les bureaux sont tout petits, on capte pas le Wi-Fi, etc. Bon, bref. Mais c'est le palais de l'Élysée, quoi. C'est la présidence de la République française. Ça pourra changer un jour, d'ailleurs. Merci, les tirs. Je trouve ça super royaliste. Ah, faut vraiment que tu ailles visiter l'Assemblée nationale, parce que tu peux pas dire ça. Là, je suis désolé. Là, s'il y a bien un temple républicain en France, c'est le palais Bourbon. Tout dans ce palais transpire la République. Ses idéaux, les droits de l'homme, etc. Il n'y a rien de royaliste dans le bâtiment. C'est un peu plus le cas au Sénat, pour le coup, qui, lui, a une histoire assez mariée avec le monarchisme, notamment au XIXe siècle, le Sénat conservateur, etc. Le Sénat a une inspiration qui est un peu plus nobiliaire. Le palais du Luxembourg, par rapport au palais Bourbon, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même ambiance. Est-ce qu'un futur président peut changer le lieu de domiciliation de ce dernier ? Oui. Il n'y a pas de règles spécifiques en la matière, c'est une question patrimoniale, etc. Mais c'était le général de Gaulle qui avait décidé de prendre le palais de l'Élysée pour la présidence de la République. Il paraît qu'il... Alors je crois avoir lu qu'il avait hésité avec le château de Vincennes. Et Yvonne de Gaulle n'avait aucune envie de vivre à Vincennes. Et dire non, c'est mort. Moi, c'est non. Et puis de Gaulle avait trouvé que Vincennes, c'était un peu loin de façon, donc il voulait rester plus proche de l'agitation politique du pays. Il fait, ouais, non, c'est bon, vas-y, laisse tomber, on va prendre l'Élysée. Le palais de l'Élysée, let's go. Est-ce qu'un président peut faire construire une salle de bal à l'Élysée comme Donald Trump ? Non, alors en l'occurrence, Emmanuel Macron a rénové l'Élysée. Tout le rez-de-chaussée à droite de l'Élysée quand on rentre, c'est une salle de réception qui sert tous les jours à faire des réceptions, à faire des trucs, des machins, des colloques, des trucs. Et quand Macron est arrivé, il a lancé des grands travaux de rénovation pour remettre au goût du jour. Il y en avait besoin. Vraiment, la salle était rincée. On sent que ça n'avait pas changé depuis des décennies. Donc c'était vraiment pourrave. Apparemment, le réseau électrique était à refaire de A à Z. Et j'ai visité le nouveau truc de l'Élysée. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable. Ça marche mieux. C'est tout neuf. Il y avait des fuites, d'ailleurs, quand il pleuvait. C'était la raison principale. Ouais, il y avait des fuites quand il pleuvait, c'est vrai. La salle des fêtes. Le coût des travaux de la salle des fêtes de l'Élysée, j'en sais rien. Ça doit être quelque part sur Internet. C'est cher. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des travaux dans un bâtiment patrimonial historique français, ça coûte cher. Il faut des autorisations, il faut des architectes spécialisés, il faut des artisans spécialisés, il y a un savoir-faire, etc. C'est plus cher que la salle des fêtes de la mairie d'à côté. Et bonjour, putain, on a parlé de plein de trucs. Pourquoi on est arrivé là-dessus ? Ah oui, on a parlé de l'Assemblée nationale. Visite de l'Assemblée nationale, Sénat, présidence de la République. Putain, on est allé loin. Dans 4 minutes, c'est le début de la séance des questions d'actualité au gouvernement qui va commencer à l'Assemblée nationale, sachant que l'Assemblée nationale a mis en pause ses débats sur le budget de l'État pour attaquer en séance publique aujourd'hui même le budget de la Sécurité sociale. Autre bataille homérique qui attend les députés à coups d'amendements pour réussir à obtenir des modifications sur ce budget. C'est dans 14 minutes. Il est quelle heure ? Ah, il est 46 ! J'ai lu 56. J'ai cru il était 56. Je me suis dit, oula ! Mais on a été pris par le temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une question sur la remarque de Macron sur le budget ? Il a dit quoi ? J'ai raté. Macron a commenté le budget ? Il faut qu'il ferme sa gueule. Là, vraiment, pardon, hein, c'est... Là, je vais prendre la défense de Sébastien Lecornu, mais si tu peux la fermer, ça fera du bien à tout le monde. Alors, budget 2026, Emmanuel Macron critique ceux qui empêchent les champions français de conquérir de nouveaux marchés. Attendez, on va lire ça, c'est magique. Le président Emmanuel Macron a fustigé mardi ceux qui empêchent les champions d'aller conquérir des nouveaux marchés dans une allusion à peine voilée au vote de plusieurs amendements taxant les multinationales lors de la discussion budgétaire en cours à l'Assemblée nationale. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ces champions d'aller conquérir de nouveaux marchés, a déclaré le chef de l'État à la 20e édition des Assises de l'économie de la mer qui se déroule à La Rochelle. Vous le savez ici, vous qui avez des champions dans le nautisme, des champions dans le vélique, des champions dans le fret, etc., etc. Et donc, on va continuer d'avancer sur cette même ambition, a-t-il complété. À chaque fois qu'on a voulu expliquer à la France qu'il fallait se replier et ne plus vouloir le grand large, on s'est trompé, a-t-il encore estimé plus tard dans son discours. Dans une alliance gauche et Rassemblement national, l'Assemblée a voté la semaine dernière plusieurs amendements augmentant les prélèvements sur les multinationales. La gauche réclame par ailleurs de s'attaquer aux aides de l'État sur les grandes entreprises pour faire des économies et réduire le déficit. Emmanuel Macron a également vivement défendu l'éolien en mer, une énergie renouvelable, abondante et qui participe à notre stratégie de décarbonation. J'ai vu beaucoup de combats que je pensais avoir réussi à écarter ces derniers temps ressurgir. Et c'est un très mauvais combat que d'opposer le renouvelable au nucléaire, a-t-il lancé aux références notamment aux positions de LR et du RN sur cette question. Il faut là aussi, pardon, de défendre une vieille conviction, un « en même temps » qui marche, a-t-il insisté. Le Rassemblement national et la droite ont tenté d'imposer un moratoire sur les nouvelles installations éoliennes et solaires, finalement rejeté par l'Assemblée nationale en juin, et le patron des Républicains, Bruno Retailleau, a lui aussi prôné un tel moratoire. Eh, mine de rien, il fait du en même temps, là, Macron. Macron, il tape sur la gauche, qui fait des taxes sur les multinationales, et ensuite, il tape sur la droite, qui empêche de faire de l'éolien et du solaire. Il va réussir à se faire aimer par tout le monde. Ou alors à se faire détester par tout le monde. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Nous mettrons en œuvre ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire sur les supermarches. L'effort supplémentaire annoncé en juillet a poursuivi le président en évoquant notamment la transformation de la dronisation. Je souhaite que les budgets prévus soient bien engagés car nous ne pouvons pas laisser nos industriels sans soutien financier, a-t-il lancé. Très discret sur la scène intérieure, Emmanuel Macron est de retour sur le terrain avec un déplacement mardi en Charente-Maritime consacré à la mer, un de ses sujets de prédilection, et la décarbonation du fret maritime à la lutte contre la flotte fantôme de pétroliers mise en place par la Russie pour contourner les sanctions induites par la guerre en Ukraine. Il doit ensuite débattre avec des collégiens et des lycéens de Rochefort sur les effets néfastes des écrans et des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Putain, j'ai tellement pas envie d'assister à ce débat. Ça va m'énerver. Ok, donc Emmanuel Macron tape sur le budget. Un budget bien trop à gauche, selon lui. ça commence à bien faire, ces alliances contre nature entre la gauche et l'extrême droite qui votent des taxes et toujours des taxes. C'est pas comme ça qu'on va soutenir nos champions internationaux. Non, mais il va énerver tout le monde, voilà, il va énerver tout le monde. Alors, il va énerver tout le monde, il va peut-être aussi renforcer le Parti Socialiste dans sa position en se disant, bah tiens, ça a l'air de le faire chier, donc c'est que ça marche. C'est que visiblement, il apprécie pas quand on va pas exactement dans sa direction. Mais en même temps, c'est ça, le pari de Sébastien Lecornu. Le fameux « nous proposons, vous décidez ». Ben voilà. Le débat sur les effets néfastes d'un truc, donc il n'y a pas vraiment de débat. Oui, entre autres, oui. Bon, on verra. Est-ce qu'il y aura une question au gouvernement sur cette sortie d'Emmanuel Macron ? Peut-être. Peut-être. Il y aura peut-être une question sur le Soudan, sujet international dont on parle beaucoup suite aux massacres terribles qui ont eu lieu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans cette séance de questions au gouvernement ? Peut-être des questions sur le PLFSS, du coup, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive en discussion en séance publique aujourd'hui même. Chine ? Ouais, Chine. Alors, je ne sais pas si vous dites Chine ou Shine, je m'en fous. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Chine qui a commercialisé des poupées sexuelles. Ouais. Ça risque de gueuler pas mal. Ça se prononce Shein. D'accord. Je vais tâcher de dire Shein. Ce sont des poupées sexuelles d'enfants. Ouais, c'est ça. Des poupées pédopornographiques. D'accord. Alors, il y a plein de manières de les appeler. C'est... Le sujet est super glauque, mais il y a plein de manières différentes de les appeler. On les appelle comment alors ? Poupées sexuelles. Poupées sexuelles d'enfants. Appelons un chat un chat. Bah, moi, je veux bien, mais comment tu veux qu'on l'appelle le chat ? Donc, pour ceux qui ont raté. Pour ceux qui ont raté, Shein, ce site de e-commerce chinois bien connu, a commercialisé des poupées en forme d'enfants à visée sexuelle, pédocriminelle, appelez ça comme vous voulez. C'est exactement ce que vous croyez que c'est. Voilà, j'ai pas besoin de vous... Voilà, c'est exactement... Si, c'est ça. Si, c'est bien ça. Oui, c'est dégueulasse. Absolument. Ça a fait une levée de bouclier de toute la classe politique. J'ai entendu absolument personne défendre le truc. Tout le monde est contre. Tout le monde trouve ça scandaleux. Tout le monde trouve que c'est très représentatif des dérives de Chine et de toutes ces plateformes chinoises qui envahissent les marchés européens. En plus de ça, il y a un deuxième débat dans le débat qui est l'implantation de Chine au BHV à Paris, le bazar de l'Hôtel de Ville, le BHV qui est un grand magasin bien connu des Parisiens juste à côté de l'Hôtel de Ville et dont le propriétaire a décidé de nouer un partenariat avec Shein qui va donc pouvoir ouvrir pour la première fois en France une boutique physique à Paris, au BHV. Qu'en pense Castaner ? Castaner a été lobbyiste de Shein pendant plusieurs mois, mais il ne l'est plus. Il a quitté l'entreprise. Christophe Castaner, c'est pas Magali Berda qui a été aussi embauchée par Shein ? Ça ouvre aujourd'hui au BHV. Ah, c'est aujourd'hui au BHV ? Ben voilà, l'ouverture est aujourd'hui. Hier, elle faisait le tour des plateaux Berda pour défendre la boîte. Si je voulais que je vous dise, moi je... Non mais... Non, elle n'est pas embauchée. Elle n'est pas embauchée ? Je croyais qu'elle bossait pour Shein. Je sais pas. Apparemment, la poupée est aussi vendue sur AliExpress et sur plein d'autres trucs chinois. Oui, bien sûr, non. On a retrouvé des poupées similaires sur d'autres concurrents de Shein. C'est pas les seuls, hein. C'est pas spécifiquement Shein. Qui en fait n'est qu'un distributeur. Hein. C'est, voilà, visiblement, il y a une demande. Et donc, il y a des usines qui fabriquent ces poupées-là quelque part en Chine et qui les distribuent sur tous les sites qui font du e-commerce. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on les retrouve sur AliExpress, qu'on les retrouve sur Temu. Shein, peut-être même Amazon d'ailleurs. Les marketplaces, voilà, c'est ça, les marketplaces. Des chouettes boîtes. Oh, de très très belles entreprises. On aime, des champions, comme dirait Emmanuel Macron. Non, d'ailleurs, on s'est posé une question juridique hier sur le stream. Est-ce que c'est illégal d'acheter des poupées comme ça ? J'en suis pas perçu. Je sais pas, en fait. Je sais pas si... En France, oui. Ok. En France, oui. D'accord, ok. Parce que les proposer à la vente, ça, je peux comprendre qu'il y a une infraction. Mais le fait d'en acheter, je savais pas. A priori, oui, c'est comme la détention d'images. Ouais. Non, mais t'as raison. Ouais, si c'est assimilable à de la possession d'images pédopornographiques, oui. Des poupées à l'effigie d'enfant, ça devrait. Mais non, une poupée, c'est toujours à l'effigie d'un enfant. Enfin, sauf Barbie, tu me diras. Mais non, là, c'est le caractère sexuel. Enfin, voilà. Disons que c'est l'usage de la poupée qui est différent. Ouais, c'est assimilable à une possession d'images pornographiques. Non, mais je comprends. Non, mais ça a du sens. Juridiquement, ça complètement assimilable, c'est logique. Les poupées adultes sont pas interdites. Bah du coup, non. Non, les poupées adultes sont pas interdites. Il y a pas de... Ce n'est pas encore un délit que de posséder des images pornographiques. C'est pour ça que l'État a demandé à Shein de donner le nom des acheteurs français. Ouais. Mais on... Attends, parce que moi je veux bien, mais on a une estimation du nombre ? On a une estimation du nombre de poupées qui ont été vendues en France ? Ça me paraît super dur à estimer. Shein doit savoir, ouais, sans doute. Une enquête va être faite. Ouais, bon, écoutez. Confiance aux enquêteurs, on les laisse travailler et on verra. Bref, la séance va commencer dans 2 minutes. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce stream. Nous allons suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Qui sont les stars qui vont s'exprimer aujourd'hui ? Quels sont les profils ? Oh, ça va commencer fort. Oh, je sens que vous allez aimer. Je vous spoile pas. Tum. Casting XXL, ça promet. Attends, laisse-moi regarder la suite. Ouais, il y a du lourd. Enfin, c'est du lourd, un peu spécial, mais c'est du lourd. Ouais. Oh, c'est une bonne séance aujourd'hui. Non, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit sur Internet. Est-ce qu'il y a des présidents de groupe qui vont parler vu la tension sur les sujets en cours ? La réponse est oui. Je vous rappelle que lorsqu'une question est posée par un président de groupe, c'est toujours le Premier ministre en personne qui répond. Ainsi veut l'usage à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Est-ce que ça va parler de la sécurité du Louvre ? Ah, j'espère. Rendez les bijoux de la couronne, putain. Ouais. Le fameux mot de passe du Louvre. Ouais, le mot de passe du Louvre, c'est Louvre. Alors, j'ai vu beaucoup de gens se moquer. Puis j'ai vu aussi des spécialistes de la sécurité sur Internet qui ont fait des tweets en disant « La ramenez pas trop parce que les entreprises, vous faites pas beaucoup mieux. Hein. » Mollo, mollo, mollo. C'est facile de taper sur les fonctionnaires du Louvre. Voilà. Entre nous. Louvre Joconde 2025. J'espère qu'ils vont changer le mot de passe et qu'ils vont mettre Rendez les bijoux 2025. Rendez les bijoux 2025. S'il vous plaît, le Louvre, faites ça comme mot de passe. S'il vous plaît. Hop, la séance est en train de commencer, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet qui monte les marches pour aller s'installer au bureau du Perchoir, ce bureau patrimoine national historique qui date de la Révolution.
Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est ouverte. Alors, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à nos collègues parlementaires participant au 8e atelier de leadership pour femmes parlementaires francophones organisé par l'Assemblée nationale du Québec avec le soutien de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
Mais bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à ces femmes parlementaires qui viennent de toute la francophonie dans le cadre d'un partenariat. Elles viennent assister à la séance. Bah, bienvenue à vous, mesdames. Enchanté. Vous allez voir, c'est sympa. Vous allez voir, attention, c'est la France. Hein.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Éric Ciotti, président du groupe UDR.
Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui va inaugurer cette séance de questions au gouvernement pour votre
Merci,
plus grand bonheur.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir macroniste que vous incarnez et que vous représentez a depuis son avènement bradé beaucoup de fleurons de notre technologie et de notre industrie.
Ah.
Alstom, Technip, Latécoère en sont malheureusement quelques exemples. Aujourd'hui, EDF s'apprête à continuer cette sombre perspective en cédant une de ses filiales majeures stratégiques, Exaion, à l'américain Mara. Cette vente au rabais marquerait un abandon supplémentaire de notre souveraineté nationale. Souveraineté énergétique, souveraineté numérique, mais aussi souveraineté monétaire. Exaion, pourtant, pourrait devenir dans le futur l'une des pépites de demain dans des domaines porteurs d'avenir et à haute plus-value. Le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, le minage des bitcoins. Avec ce rachat, la France perdrait, si vous n'intervenez pas, un atout stratégique dans la révolution technologique, industrielle et monétaire en cours. Pire encore, une clause de non-concurrence interdirait à EDF de relancer une activité similaire pendant 2 ans. EDF et notre parc nucléaire constituent un trésor national, héritage du général de Gaulle, financé par des générations de Français. Le temps presse donc, Monsieur le Premier ministre.
Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, il a 60 ans, il vient de Nice, il a été collaborateur de Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice. Il a surtout été président des Républicains entre 2022 et 2024 et il s'est fait têche par la vieille garde du parti après son alliance avec Marine Le Pen lors des élections législatives. C'est pour ça qu'il a créé l'UDR, parti allié de Marine Le Pen. La réponse sur cette question technologique du Premier ministre.
Rendre hommage au caporal Jimmy Gosselin du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, qui est tragiquement mort en servant courageusement au sein des forces armées guyanaises, qui vient rappeler à quel point la mission Harpie est une mission dangereuse, une mission intérieure, sur laquelle malheureusement encore trop de nos soldats viennent à être blessés ou tués, affrontant le danger au service des Guyanaises, des Guyanais et de la nation française.
Standing ovation sur tous les bancs de l'hémicycle pour ce militaire mort en service.
Pour être précis, puisque le diable se niche dans les détails, Exaion n'est pas à vendre, et heureusement, le sujet, bien sûr, c'est la question de l'augmentation de capital d'Exaion. Pourquoi la question de cette augmentation de capital se pose? Puisque nous avons souhaité, je pense que d'ailleurs il peut y avoir consensus, ou en tout cas un consensus relatif sur l'ensemble de ces bancs, c'est que EDF se concentre sur le financement du nucléaire, et notamment de son nouveau nucléaire. Se pose donc évidemment la question de l'avenir de cette start-up, de cette filiale en quelque sorte, d'EDF. Donc, un, elle n'est pas en vente. Deux, EDF, monsieur le président Ciotti, va devoir rester... Non, c'est pas pareil. Ah non. EDF, je vous réponds à votre question, EDF va rester au capital de cette entreprise. La troisième des choses, monsieur le président Ciotti, même un actionnaire minoritaire, et ce n'est pas encore décidé, peut avoir des conditions de blocage et de protection. On l'a déjà fait des centaines de fois sur tous les gouvernements de gauche et de droite de ces 20 dernières années, donc c'est possible. La troisième des choses, c'est à quelles conditions c'est acceptable. Et ça, pour le coup, c'est le cœur de votre question, et je la reçois bien volontiers. C'est bien pour ça qu'une procédure dite IEF a été déclenchée depuis le mois de septembre dernier, et qui va permettre aux services de Bercy, au secrétariat général pour la défense nationale, à celles et ceux qui ont à connaître aussi des questions numériques et énergétiques, d'émettre un avis et des conditions sur cette augmentation de capital.
Les pins que vous voyez au revers de la veste des députés, c'est le bleuet de France. Le bleuet de France est un symbole de mémoire envers les anciens combattants qui est vendu et porté à l'occasion du 11 novembre et du 8 mai.
Cette entreprise, parce que comme ancien ministre des Armées, je suis bien placé pour savoir que parfois on a fait dire à des entreprises qu'elles avaient un rôle critique dans la défense nationale. On s'est aperçu après examen et analyse poussée que ce n'était pas toujours le cas. Là, en l'espèce, il faut le documenter et évidemment les conditions qui vont nous permettre de le faire. Ensuite, donc, je serai amené, ou le ministre Roland Lescure, le cas échéant, sera amené à rendre compte à l'Assemblée nationale et à la représentation nationale, pardonnez-moi, des conditions dans lesquelles cette affaire peut se faire. Si j'ouvre le débat plus largement, et sans faire le droit de suite des discussions que nous avons pu avoir dans cet hémicycle sur la fiscalité la semaine dernière, ça pose quand même très clairement maintenant la question de la disponibilité de capitaux français en France, pour investir dans ces entreprises. Et on le voit bien, et on sera amené à y revenir, sur la question de nos fonds souverains, sur la question de la mobilisation de l'épargne des Français, de la question des assurances-vie. Ce que nous avons commencé à faire pour les entreprises liées à la défense nationale doit impérativement être accéléré sur l'ensemble des secteurs souverains, et je serai amené à y revenir dans les tout prochaines semaines, parce qu'on le voit bien, un des gros problèmes de l'Europe et de la France, c'est le manque de disponibilité de ces capitaux, qui crée donc des vulnérabilités et qui font que les capitaux étrangers, tantôt chinois, tantôt du Golfe, tantôt américains, peuvent venir au secours de certaines de nos entreprises qui n'ont pas spécialement envie de se donner à ces fonds, mais il faut bien qu'on trouve une solution de capitaux disponible. Et donc, on va protéger cette entreprise, EDF va rester dedans, la procédure IEF, qui est une bonne procédure, va fonctionner, mais derrière tout ça, va bien falloir quand même traiter aussi le mal à la racine, et c'est la question de la disponibilité de ces capitaux, et ça, on va y revenir dans les tout prochains.
Ça a l'air rassurant, en tout cas, ce que dit le Premier ministre sur l'avenir de cette entreprise d'EDF qui va élargir son capital.
La parole est à présent à M. Arnaud Bonnet, pour le groupe Écologiste et Social.
Arnaud Bonnet, député de Seine-et-Marne.
Merci Madame la Présidente. La répression des fraudes a lancé l'alerte et mis au jour le scandale des poupées pédocriminelles. Car il n'y a pas d'autre mot. Vendues sur le site de Chine dont M. Castaner, ancien ministre macroniste, a été le promoteur. Voyez l'importance des services publics. La pédocriminalité s'épanouit en France. La Civise tente de nous alerter depuis plusieurs années. Elle a produit 82 préconisations qui ne sont toujours pas effectives. Qu'attendez-vous? Dans notre pays, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. À savoir 3 élèves par classe. Chaque jour perdu est le témoin de notre culpabilité. Chine est le produit le plus abouti du capitalisme et du libéralisme débridé. On voit avec ces poupées que la pédocriminalité est banale. Un autre bien à vendre, à bas de gamme, à côté des pantalons et de t-shirts. Une opportunité de s'entraîner tranquille, chez soi, avant de passer à l'acte sur des enfants. Oui, Chine a retiré ses poupées infâmes de la vente, mais seulement en France. Avec l'expansion des VPN, cela veut dire en réalité, comme a réussi à démontrer l'association Move Enfants, que les violeurs d'enfants en France pourront continuer de les acheter dans tous les autres pays du monde. Pourquoi des poupées décrites, je cite, et attention aux propos, poupées sexuelles, jouets de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus, poupées fantastiques pour hommes solitaires, peuvent-elles être vendues chez nous? Car nous sommes le pays où un homme, comme Joël Le Skouarnec, peut sévir pendant 30 ans et violer des centaines d'enfants. Et d'ailleurs, fait sordide, il avait ce type de poupée chez lui. Et c'est maintenant, dans ce même pays, pour la première fois au monde, que Chine a choisi de s'implanter, aujourd'hui même dans l'un des plus grands magasins de Paris, le BHV. Quelle vitrine pour notre culture !
On sent la colère chez Arnaud Bonnet, député de Seine-et-Marne. Il a 48 ans, il est professeur de SVT au collège. Il a été le responsable de la commission Enfance, Éducation et Formation chez Europe Écologie Les Verts.
Tout ce que l'on sait sur les conditions inhumaines de travail, les produits qui ne sont pas aux normes européennes et maintenant la promotion d'actes HVEC de pédocriminalité, laissez cette enseigne s'installer chez nous.
Merci, monsieur le député.
Grosse colère de la part du député sur ce sujet qui a ému toute la classe politique.
De l'économie et des finances.
Standing ovation, on le voit, de la part de ses collègues. Et ça se lève aussi du côté des macronistes. On écoute la réponse du gouvernement.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Bonnet. Au fond, on est tous gênés par l'explosion de ce qu'on appelle la fast fashion, la mode ultra rapide depuis quelques années. Et ce sujet a été pris à bras-le-corps à la fois par le gouvernement qui, via une taxe sur les petits colis et un combat au niveau européen pour en taxer les arrivées, et par cette Assemblée nationale avec la députée Anne-Cécile Violent qui porte une proposition de loi sur la réglementation de la mode ultra rapide. Mais là, on parle de quelque chose de complètement différent. En mettant en ligne les poupées que vous avez décrites, et j'allais dire malheureusement bien décrites, Shein a dépassé les bornes. Je voudrais remercier le ministre Papin, je pense qu'il aura l'occasion de s'exprimer à nouveau dans le cadre de cette session, à la fois lui et ses équipes, parce que si nous sommes capables aujourd'hui de parler de ce sujet, c'est que les équipes de la répression des fraudes ont été exemplaires pour identifier ces biens et intervenir tout de suite auprès de la plateforme pour qu'elle les retire.
GG la répression des fraudes.
Mais au-delà de ça, je veux être très clair, monsieur le député. Vous avez voté une loi, nous avons voté une loi, et cette loi, nous l'appliquerons. Cette loi, elle dit des choses très claires. L'apologie du terrorisme, le trafic de stupéfiants et la pédocriminalité n'ont en aucun lieu place sur les réseaux, j'allais dire de vente, quel qu'il soit, et a fortiori sur une plateforme dont on sait qu'elle s'adresse en premier lieu à des adolescents et des jeunes adultes. Nous l'avons dit, je vous le redis, les plateformes qui vendent ce deux produits n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Je vous remercie, monsieur le député.
Merci.
Pas très satisfaisant comme réponse de la part du ministre qui se borne au marché français.
Madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National.
Marine Le Pen pour le Rassemblement National.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 5 juillet 1962, l'Algérie prenait son indépendance. Le 30 octobre 2025, la France affirmait enfin la sienne. Après 57 ans d'un accord anachronique, peu glorieux pour l'Algérie et léonin pour la France, il était temps de purger les reliquats d'une situation coloniale. Les patriotes algériens devraient se réjouir de notre vote, puisque rien n'a jamais justifié qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas traité par la France comme tous les autres pays du monde et se retrouve dans la situation humiliante de bénéficier d'une sorte de régime de discrimination positive de la part de l'ancienne puissance coloniale. L'Assemblée nationale française est également venue mettre fin à un accord dicté en son temps par un certain patronat sans scrupules qui cherchait à disposer d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs pour travailler à bas prix dans des conditions bien souvent peu reluisantes.
Aux grandes dames de l'OAS.
Ce vote est tout un symbole, celui d'un changement d'époque, et pour les travailleurs algériens comme pour les travailleurs français, celui d'un retour à une morale sociale élémentaire. Pour le gouvernement, ce vote de l'Assemblée va également permettre de nous montrer si vos déclarations, monsieur le Premier ministre, sur la reconnaissance affirmée du Parlement relève d'une adhésion réfléchie ou d'un élément de langage, d'un changement réel de mentalité ou d'un effet de manche déployé dans le but de neutraliser certains députés apeurés à l'idée de retourner devant les électeurs. Mais monsieur Le Cornu, je veux croire dans votre honnêteté, et monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1960 ?
Marine Le Pen qui enfonce le clou suite au vote de la résolution proposée par le RN la semaine dernière d'abroger l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie. Le gouvernement gêné par ce vote. On écoute le Premier ministre.
Madame la Présidente Le Pen, peut-être deux points de forme ou de méthode avant de répondre précisément sur le fond. La première, je me suis fixé comme règle dans mes anciennes fonctions comme ministre des Armées, et je m'applique la même fonction désormais, enfin la même règle dans ces fonctions de Premier ministre, c'est de ne jamais faire de la question de l'Algérie un sujet de politique intérieure en France. D'autant plus qu'il est arrivé que dans la vie politique intérieure algérienne, la relation avec la France soit un sujet de politique intérieure chez eux, et donc je souhaite évidemment qu'on puisse avancer sur ce chemin. La deuxième des choses, on respecte tous la Constitution de 1958, et donc par définition, la question des traités et des accords revient à l'exécutif, et c'est ensuite à l'Assemblée nationale de ratifier les traités et de les voter, et donc par définition, il s'agit d'une résolution, et seulement d'une résolution, ce qui ne veut pas dire que nous ne prenons pas acte et que le gouvernement de la République ne prend pas acte du vote de l'Assemblée nationale, mais ne faisons pas dire à cette résolution ce qu'elle n'est pas. Ensuite, sur...
Il a raison. Mais politiquement, c'est dur à tenir.
Je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Et soyons précis, il y a déjà eu 3 renégociations dans l'histoire. 2 d'ailleurs menées sous des gouvernements de gauche et 1 menée sur un gouvernement de droite. Parce que cet accord, à bien des égards, est caduque, n'est plus complètement à jour au regard d'ailleurs des attentes des deux parties. Et donc au fond, ce que je propose comme feuille de route pour avancer sur ce sujet, c'est de repartir du comité de haut niveau que la France et l'Algérie ont tenu à l'octobre 2022, dans lequel il était justement écrit et acté que nous devions renégocier cet accord. C'est tout ce qui s'est passé depuis 2022 avec les différentes pannes, freins dans la relation entre la France et l'Algérie. Moi, je considère qu'il faut remettre cette négociation non seulement sur la table, mais il faut également repartir de nos intérêts plus globaux. Il n'y a pas que la question migratoire. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de sécurité, la question de la pression terroriste qui monte au Sahel, les questions de sécurité maritime et puis les questions économiques, parce que je crois que le moment est venu d'avoir aussi une approche beaucoup plus globale dans la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est le respect de la souveraineté de l'Algérie et donc des gouvernements algériens, quels que soient nos désaccords, on doit être capable de mener une discussion qui soit exigeante et qui protège nos intérêts. À la question du calendrier, on sait que ces choses peuvent prendre du temps. Il faut donc désormais que ce début de renégociation démarre le plus vite possible.
Ah oui, l'Algérie n'a aucune raison de renégocier.
Venir au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Elle est là la difficulté.
Arrêter avec ses différents homologues, ainsi que le ministre de l'Intérieur pour ce qui le concerne, et la ministre des Armées pour ce qui la concerne aussi, puisqu'un certain nombre de sujets méritent également un point d'attention rapide. Dernier point, on ne peut pas évoquer cette question sans citer évidemment nos compatriotes, Christophe Glaize et Boualem Sansal, pour lequel l'ensemble des services de l'État et de notre diplomatie sont évidemment mobilisés pour poursuivre et obtenir, avec nos efforts, leur libération. En tout cas, pas un sujet de politique intérieure, un sujet bilatéral de respect qu'il convient, à mon avis, de traiter avec beaucoup de sang-froid pour nous permettre justement d'avancer, parce que vous avez parlé d'histoire, il y a aussi une réalité, c'est notre géographie, et évidemment, on ne peut pas la mettre de côté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur.
Sébastien Lecornu qui marche sur des œufs et qui reparle de renégociation du traité de 1968.
C'est personnel, mais ça n'est pas ce qu'a voté l'Assemblée nationale.
Et Marine Le Pen qui enfonce le clou sur le vote qu'elle a obtenu la semaine dernière.
La parole est à monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste.
Jérôme Guedj pour le PS.
Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est les 80 ans de la Sécu. Nous débutons tout à l'heure l'examen du PLFSS, un texte essentiel pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais à vrai dire, au moment où nous débutons, nous ne savons pas exactement où nous allons. Il n'y a pas de 49-3, tant mieux. Mais on a besoin quand même de quelques clarifications. Nous avons accepté, par notre non-censure, de permettre à ce débat de se déployer. Votre texte a abandonné la suppression de 2 jours fériés et la réforme de l'assurance chômage, c'est heureux. Vous vous êtes engagé à suspendre jusqu'au 1er janvier 2028 la réforme des retraites, y compris pour les carrières longues. Mais au nom du pouvoir d'achat, préoccupation première de nos concitoyens, nous devons vous dire notre opposition ferme à l'année blanche sur toutes les pensions et sur toutes les prestations. Vous vous êtes d'ores et déjà engagé dans ce sens. Au nom de notre amour de l'hôpital public, nous défendrons le renforcement de l'ONDAM hospitalier d'au moins 1 milliard supplémentaire. Au nom de notre attachement à l'universalité de la sécurité sociale et au nom de la protection des classes moyennes et des classes populaires, nous voulons vous redire notre opposition farouche au doublement des franchises médicales. C'est de votre seul ressort, car ça se fait par décret. De même manière, fragiliser le salaire des apprentis, plafonner les indemnités journalières, pénaliser les tickets restaurants et les chèques vacances, nous ne pourrons l'accepter. Mais nous sommes lucides. Pour renoncer à ces mesures injustes, il faut dégager d'autres économies et mieux lutter contre la fraude. Nous y sommes prêts. Mais surtout, et je le dis avec solennité, pour la sécurité sociale, il faut mobiliser de nouvelles recettes. Des propositions sont sur la table, mais sans votre assentiment, comme sur la CSG Capital, elles ne pourront pas prospérer. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de cette clarification avant d'entrer dans les débats, amendement par amendement, car sinon, il n'y aura pas d'atterrissage global.
Jérôme Guedj, député de l'Essonne, évidemment, du côté de Massy, il a 53 ans, il a été inspecteur général de l'inspection des affaires sociales, ancien assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon, figure de la gauche du Parti socialiste pendant des années, président du conseil départemental de l'Essonne. Il pose une question sur l'ouverture du marathon d'examen du budget en séance publique qui commence sera juste après la séance des QAG, et il demande des comptes au gouvernement.
Merci, monsieur le député.
Amélie de Montchalin pour le gouvernement.
C'est extrêmement important quand on construit un budget, qu'il soit de l'État ou de la sécurité sociale, de ne pas détacher les recettes des dépenses et les dépenses des recettes. Il se trouve que la LOLF nous amène à d'abord étudier les recettes. Et vous le savez, le Premier ministre l'a indiqué, nous serons évidemment très ouverts pour accompagner toutes les mesures justes, proportionnées et efficaces qui pourront être proposées pour qu'à la fin, effectivement, nous réduisions le déficit de la sécurité sociale, puisqu'il ne peut pas rester à 23 milliards comme cette année. Les mesures, vous le savez, de recettes qui vont être discutées, ce sont celles sur les niches sociales, sur la CSG patrimoine, sur le gel des barèmes, sur la participation des complémentaires, sur la participation des assurés qui en ont les moyens. Ces débats, nous allons les avoir. Et vous le savez, avec le Premier ministre, avec mes collègues Stéphanie Rist et Jean-Pierre Farandou, nous voyons déjà émerger, du côté des dépenses mais aussi des recettes, des compromis possibles. Je pense à l'hôpital, notamment avec le renforcement de l'ONDAM hospitalier. Je pense aux retraites, à la fois les enjeux d'indexation et de suspension. Je pense aux enjeux ultramarins, avec notamment les évolutions que nous pourrons porter à notre proposition sur l'ODEOM. Je pense aux minima sociaux, qui doivent être effectivement revalorisés. Au travail, avec les heures supplémentaires d'un côté, mais aussi le soutien aux apprentis. Bref, que ce soit sur la fraude ou les mesures d'économie, nous voyons qu'il y a des compromis possibles et vous l'avez dit, les recettes doivent aussi faire l'objet de compromis collectifs. Il s'agit d'une première lecture, il y aura une navette, il y aura une seconde lecture. Notre conviction, depuis le début du débat, vous le savez, c'est que nous, gouvernement, nous sommes au service des parlementaires, nous sommes au service du compromis, nous facilitons l'émergence de ces compromis et nous avons bien en tête que nous devons être attentifs à deux choses.
Bien partagé. Oui, tu as raison, Acheroud, de rappeler un truc, c'est que Amélie de Montchalin, qui est en train de parler là, elle est ministre des Comptes publics, mais elle n'est pas députée. Et pourquoi elle n'est pas députée? Parce que Jérôme Guedj l'a battue.
Nous pouvons y arriver si tout le monde veut y arriver.
Un petit règlement de compte dans l'Essonne, là.
Madame la ministre, la parole est à présent à monsieur Stéphane Viry pour le groupe Liot.
Stéphane Viry, le député des Vosges.
Merci à vous, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, alors que le chômage repart à la hausse avec plus 1,6% au troisième trimestre, alors que notre pays cherche à redresser ses comptes et à relancer sa production, un paradoxe s'installe. On parle beaucoup d'économie, mais on oublie la première richesse de la France, à savoir le travail. Aujourd'hui, 6 millions de Français sont privés d'emploi. Et cette inactivité coûte 48 milliards d'euros chaque année à notre pays. 48 milliards d'euros. Ce chiffre, à lui seul, devrait nous interpeller, nous réveiller en ces temps budgétaires. Je voudrais également aujourd'hui avoir une pensée pour nos apprentis, pour nos entreprises, à qui l'on retire l'exonération de cotisations sociales. Je voudrais également que l'on pense tous ensemble aux structures d'insertion par l'activité économique, dont les moyens vont être amputés de 14%, menaçant près de 20 000 emplois. Mais Monsieur le Premier ministre, ces mots aujourd'hui, je voudrais surtout les adresser à la jeunesse de France. Cette jeunesse qui doute, qui cherche sa place, qui parfois ne la trouve pas, qui parfois est éloignée du travail et de la société. Aujourd'hui, plus de 600 000 jeunes sont en errance, victimes d'un échec ou d'un manque de chance. Nous ne pouvons pas les abandonner. Les missions locales, elles, ne les abandonnent pas. Elles sont la première porte d'entrée vers l'emploi. Elles sont un service public de proximité, humain, ancré dans nos territoires. Les missions locales, mes chers collègues, sont le deuxième réseau après l'éducation nationale pour accompagner les jeunes de 16-25 ans en France. Elles incarnent tout simplement l'espoir républicain pour des milliers de jeunes. Et pourtant, monsieur le Premier ministre, dans votre budget 2026, vous saignez leurs moyens. Moins 13% de financement, moins 20% en deux ans. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Souhaitez-vous, très sincèrement, supprimer les missions locales
et une... Stéphane Viry, député des Vosges, du côté d'Épinal, il a 56 ans, il est avocat au barreau d'Épinal. Il a été au RPR et chez les Républicains, mais il a quitté les Républicains pour dénoncer l'accord avec le Rassemblement National d'Éric Ciotti. Il pose une question sur les missions locales. Merci pour cette question. Vive les missions locales. Courage à tous les agents qui bossent dans les missions locales. Alors, la réponse.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Viry, je connais votre engagement pour le travail. Nous en avons parlé pas plus tard qu'hier soir en commission et nous avons échangé sur les sujets que vous soulevez. Je voudrais vous rappeler que le ministère du Travail et des Solidarités, dont j'ai la charge, pilote de très nombreux dispositifs pour permettre le retour vers l'emploi de ceux qui en sont privés. Je tiens à remercier d'ailleurs tout particulièrement les équipes et les conseillers France Travail, les missions locales que vous avez évoquées et les Cap Emploi qui accompagnent chaque jour les demandeurs d'emploi, les jeunes en particulier, que vous avez énoncés dans les missions locales. Je sais qu'elles sont particulièrement spécialisées sur les jeunes et les travailleurs handicapés, également dans leur parcours de réinsertion. Le contexte budgétaire que nous connaissons sur la sécurité sociale, un rapport de la Cour des comptes est sorti sur ce sujet-là, nous oblige à envisager un effort de redressement sur l'ensemble de ces dispositifs. Je vous rassure, les missions locales resteront au cœur de notre action pour l'insertion, je le redis, particulièrement centré sur les jeunes. Je sais aussi que notre dispositif vous tient à cœur, le dispositif zéro chômeur de longue durée. Nous avons aussi débattu là-dessus. Je sais qu'une évaluation va être faite de ce dispositif. Un projet de loi, je crois que vous vous y préparez. Je suis prêt à travailler avec vous là-dessus, sur ce sujet-là. C'est aussi un élément très important pour des populations encore plus éloignées vers de l'emploi qu'il nous faut agir. Le rapport d'évaluation arrive bientôt. Il sera la base de cette action partagée. Je souhaite donc pouvoir poursuivre avec vous les échanges entamés sur tous ces sujets. C'est l'esprit des discussions que nous avons et c'est dans cet esprit-là, bien sûr, que je suis prêt à travailler avec vous pour faire avancer les projets de loi sur lesquels vous avez commencé à travailler. Je vous remercie, monsieur le député.
Pas de réponse sur les budgets des missions locales, mais une bonne volonté du gouvernement pour travailler avec les députés. On va voir. Hein.
Monsieur le ministre, je crains une stratégie d'étouffement à moyen terme des missions locales et à la baisse durable de la prestation et de leur qualité.
Merci beaucoup.
Crainte partagée.
La parole est à présent à Madame Olivia Grégoire.
Olivia Grégoire.
La République.
Pour les macronistes de EPR.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs années, notre pays assiste impuissant à la montée d'un géant sans foi, sans loi, qui piétine l'intégralité des règles de notre commerce, qui dévore un par un nos emplois comme nos entreprises d'habillement et qui trompe délibérément les consommateurs. Ce géant sans foi ni loi porte un nom, il s'appelle Chine.
Ah oui.
Alors bien sûr, comme mon collègue écologiste l'a rappelé il y a quelques instants, il y a cette terrible affaire signalée à la justice pour la vente de poupées sexuelles à apparence enfantine. Mais n'oublions pas non plus, chers collègues, la condamnation à une amende record de quelque 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses. N'oublions pas non plus le fait que l'OCDE ait épinglé Chine pour non-respect des droits humains, des engagements environnementaux, pour transparence largement insuffisante. Et pourtant, pendant que nos artisans, nos créateurs, nos commerçants se démènent pour continuer à produire en France, pour faire vivre nos centres-villes, pour payer leurs charges et respecter les normes, Chine s'offre une vitrine de prestige au cœur du BHV à Paris. Quand Chine augmente ses ventes de quelque 58% en 2023, les défaillances des commerces d'habillement augmentent, eux, de 51%. Monsieur le ministre, vous le savez, nous ne sommes pas condamnés à l'immobilisme. La loi française, le code pénal, les conventions internationales, l'Europe, le DSA nous offrent des outils. La France peut, la France doit mobiliser les autorités irlandaises pour obtenir des sanctions immédiates, imposer la mise en conformité de la plateforme, à l'instar de ce qui a été fait pour Vinted. Il est grand temps de rétablir l'ordre économique, monsieur Monsieur le ministre, ça n'est pas assez géant de faire la loi, c'est aux représentants.
Olivia Grégoire, députée de Paris, ancienne gérante d'un cabinet de conseil en stratégie de communication pour les PME. Elle a été conseillère de Xavier Bertrand, l'invité de l'émission Backseat ce jeudi. Elle a rejoint En Marche en 2017. Elle est devenue porte-parole du gouvernement sous Elisabeth Borne. Elle pose une question à son tour sur la menace que représente Chine.
Du commerce, de l'artisanat.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Ministre Grégoire. En effet, nous sommes face à une plateforme condamnée à plus de 190 millions d'amende ces derniers mois pour des faits de tromperie commerciale. La non-conformité des produits atteint des volumes sans aucune commune mesure avec le commerce physique. Et ce week-end, la DGCCRF, dont moi aussi je salue l'action, a signalé l'intolérable, la vente de poupées pédopornographiques est désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. Une plateforme dont les responsables se félicitent d'avoir retiré en 24 heures ces poupées à la vente en France, mais qui continue à les proposer chez nos voisins. C'est quand même grave. Ils ont arrêté en France, mais ils continuent ailleurs. Alors, chez ces plateformes comme Shine, Temu, mais il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres. L'inconformité, ce n'est pas une exception, vous venez de le dire, c'est la règle. La tromperie, le contournement, c'est leur business model. C'est systémique, c'est pour ça qu'ils font des prix, parce qu'ils ne respectent rien. Alors dans notre pays, par exemple, quand il y a un problème d'hygiène dans un restaurant, on le ferme. Hein, c'est arrivé, c'est assez... Alors que là, une plateforme qui vend des produits pédopornographiques continue à les vendre ailleurs peut-être qu'en France, mais ce n'est pas normal. Et je veux que nous réfléchissions ensemble à la manière de faire évoluer les moyens juridiques dont dispose l'État pour faire face à cette menace. Sans attendre qu'elle se répète. Eh oui.
Bah ouais, oui.
Parce qu'elle se répétera, ça c'est sûr. Par ailleurs, vous le savez, pour avoir été ministre avant moi, ces plateformes posent également un problème de concurrence déloyale. Elles font du dumping. Si un rideau des commerces tombe dans nos villes, c'est de leur faute.
Serge Papin, il est ministre des petites et moyennes entreprises.
C'est de leur faute. Monsieur le ministre, votre temps est écoulé, désolé.
C'est 2 minutes de temps de parole par personne.
C'est fini.
Sauf le Premier ministre, qui n'a pas de limite de temps de parole.
Vous avez 2 minutes, c'est comme ça, et merci de vous plier aux règles de l'Assemblée nationale. Ben oui, c'est important, mais vous savez, monsieur le ministre, toutes les questions des parlementaires sont importantes et toutes les réponses des ministres sont importantes.
C'est la règle. Vous êtes sur la chaîne Twitch de Jean Massillon, on respecte les règles.
Monsieur Emmanuel Grégoire, vous avez la parole pour le groupe socialiste.
Emmanuel Grégoire, le candidat à la mairie de Paris pour les socialistes.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre, mais je vais rebondir sur les propos du ministre. Pendant que vous réfléchissez, des entreprises vendent en France des poupées à l'effigie de nos enfants. Ce qui se joue ici n'est pas un simple différend commercial. C'est une bataille que nous voulons comme modèle de société pour nous et pour nos enfants. En 2023, le groupe socialiste a saisi l'OCDE sur Chine. Le rapport publié fin septembre confirme de graves manquements de l'entreprise, vous les avez évoqués à l'instant, mais combien de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps ils vont être les témoins de notre impuissance et nous marcher dessus ? Ce matin, sur les ondes de RTL, le propriétaire du BHV a confessé qu'après la révélation de la vente de poupées pédopornographiques, il avait, je le cite, « réfléchi », a renoncé au partenariat. Réfléchi, pas agi, pas refusé. Il a pesé la honte et l'indignité sur la balance du profit. On nous dit « la provenance des produits sera vérifiée ». Qui peut encore sérieusement prononcer ces mots pour parler de cet empire de l'ultra fast fashion ? Payer un t-shirt à 2 euros, c'est payer la destruction de milliers de vies humaines et de notre planète. Monsieur le Premier ministre, il s'agit de comprendre que deux mondes s'affrontent. D'un côté, l'empire du jetable, de la déshumanisation et de la marchandisation à outrance. De l'autre, un monde de respect, notre monde, celui qui a bâti nos ateliers, nos rues, nos solidarités, nos sociétés et les luttes sociales. Il faut savoir dire stop à l'horreur plutôt que de vivre l'impuissance de se faire marcher dessus. Dire non à l'idée que la France devienne la salle d'exposition du pire modèle économique de l'histoire et de la planète. Dire non à ceux qui pensent que l'argent décide de tout. et que la République doit se taire ou pire qu'elle est contrainte à l'impuissance.
Emmanuel Grégoire, député de Paris, il a 47 ans, il a bossé dans une boîte de conseil en milieu sanitaire. Il a été chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault, qui était le Premier ministre, de François Hollande, premier adjoint d'Anne Hidalgo, et désormais candidat à la succession de la maire de Paris.
Papa qui va pouvoir continuer.
Il pose une question sur Chine. Chine qui s'installe au BHV à Paris, comme vous le savez.
Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Grégoire, en effet, personne ne comprend cette ouverture. D'ailleurs, j'ai noté que les Galeries Lafayette, c'est important, rompent leur contrat avec la SGM, qui est donc propriétaire des BHV. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer. Évidemment, quand on a en plus toutes les révélations de ce week-end, on ne peut qu'être effaré. Alors, en ce qui concerne l'ouverture de demain, je serai évidemment très vigilant avec les services de la DGCCRF aux produits qui seront commercialisés. Et par ailleurs, plus globalement, vous connaissez les actions du gouvernement pour lutter contre ces plateformes. On va mettre en place la taxe de 2 euros par article, je signale, et tripler les prélèvements sur ces produits, toujours dans l'objectif de protéger les consommateurs. Enfin, on va continuer de travailler avec vous pour faire aboutir la proposition de loi sur l'ultra fast fashion. Je suis déterminé, j'ai conscience de ce qu'il faut faire. Il faut aussi éveiller les consciences, il faut regarder tous les aspects juridiques. Et on va, bien sûr, qu'on a le devoir de vigilance, on est à la tâche. Et je peux vous dire, il y a le consommateur et il y a le citoyen. Le consommateur, il se demande quel produit je veux. Et le citoyen, il se demande dans quel pays je veux vivre. Et vous avez raison de le signaler. Et le pays dans lequel nous voulons vivre, il n'est pas en vente sur Shein.
Serge Papin qui a de l'avance sur son temps de parole cette fois-ci. Serge Papin, ce n'est pas un professionnel de la politique, il vient de la société civile. Il a été président d'Auchan et il a été PDG du groupe coopératif Système U.
Merci Madame la
Présidente. Fabien Di Filippo pour Les Républicains.
Mieux rémunérer le travail, mettre fin à l'assistanat, refuser toute hausse d'impôts, baisser les dépenses et le train de vie de l'État. La droite républicaine a voulu ce débat budgétaire pour éviter aux Français et à notre économie une impasse politique ruineuse et pour obliger tous les groupes politiques à assumer leurs propositions de fonds pour l'avenir du pays. Mais Monsieur le Premier ministre, si au bout des débats le budget devait s'appliquer par ordonnance ou loi spéciale, ce sont vos choix qui décideront les mesures conservées dans la copie finale. Notre groupe revendique des victoires importantes pour la France qui travaille, sur la défiscalisation des heures supplémentaires ou la non-augmentation de l'impôt sur le revenu, par exemple. Cependant, le vote de 40 milliards d'euros d'impôts nouveaux sur les ménages, mais surtout sur les entreprises, obtenu d'ailleurs par l'alliance baroque des groupes situés aux extrémités de cet hémicycle, est inacceptable. En effet, le taux de prélèvement obligatoire dépasserait les 45%, soit plus que sous François Hollande. Au-delà des slogans populistes, l'augmentation de n'importe quel impôt se répercute toujours en bout de chaîne sur le contribuable ou le consommateur. Quand comprendrons-nous enfin que ce qui sauvera notre modèle social, c'est de soutenir nos entreprises et nos travailleurs et non d'alourdir leur fardeau ? Comment accepter qu'ils passent des nuits blanches ou renoncent à investir ou embaucher à cause de la teneur de nos débats actuels ? Comment expliquer, quelle que soit la situation et le chantage de la gauche, que perdurent des situations dans lesquelles reprendre un travail paye moins que de rester dans l'inactivité ? Ou comprendre que votre gouvernement souhaite finalement revaloriser les aides sociales alors qu'il refuse de se positionner clairement sur notre proposition d'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC.
Fabien Di Filippo, il est député de Moselle, du côté de Sarrebourg. Il a 39 ans, il est analyste d'affaires, il a été consultant auprès d'un cabinet d'avocats et il fait partie de l'aile la plus droitière des Républicains. Il pose une question sur les choix budgétaires du gouvernement.
La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'Action et des Comptes Publics.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est le moment, effectivement, de faire un premier bilan des travaux qui ont commencé il y a une dizaine de jours. Et vous m'interrogez sur les impôts. Je veux rappeler que, évidemment, on ne peut pas penser les recettes sans les dépenses et on ne peut pas penser la fiscalité sans les économies. À la fin, si on regarde ce qui a été fait depuis 10 jours, il y a des impôts qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé. Pour les ménages, c'est moins 4,5 milliards d'euros d'impôts et pour les PME, c'est moins 3 milliards. Mais ça, c'est la réalité des votes. Je ne tiens pas compte ici
de ce qu'on
appelle les illusions. Les illusions, ce sont effectivement c'est plus de 35 milliards d'euros d'impôts sortis du chapeau de certains qui pensent qu'ils pourraient s'appliquer. Ces illusions sont contraires à notre Constitution, elles sont contraires à notre droit international, elles sont contraires à tout ce pourquoi je crois que collectivement nous voulons. Et elles sont contraires à la boussole que nous avons, je crois, collectivement tenue fort pendant ces débats. Et je vous remercie à tous ici de l'avoir portée ensemble. C'est celle de vouloir protéger l'emploi des Français. C'est celle de vouloir protéger l'appareil productif et industriel. Et c'est celle de vouloir rappeler qu'effectivement, dans notre pays, le travail doit payer.
J'aime bien son argumentaire. Si on ne compte pas les hausses d'impôts, les impôts, ils baissent.
Ça s'appelle le débat parlementaire.
Oui.
Mais là où nous avons peut-être ensemble encore à travailler, c'est que je ne crois pas qu'il faille nous mettre dans la position de penser que nous n'arriverions pas à trouver ce compromis. Nous ne voulons pas, nous, gouvernement, être contraints à constater un échec. Nous voulons, avec vous, continuer à bâtir le compromis que vous déciderez pour le pays. La loi spéciale ou les ordonnances ne sont pas ce pourquoi nous nous engageons, ne sont pas ce pourquoi vous avez passé, et nous avons passé ensemble, des jours et des nuits à tracer un chemin qui doit être positif pour le pays, positif pour l'emploi, positif pour les Français. Deux éléments aussi à rappeler. Que ce soit sur la lutte contre la fraude ou sur l'allocation sociale unifiée, vous connaissez les engagements du Premier ministre, vous connaissez les engagements du gouvernement. Ils seront débattus dans cet hémicycle dans les prochains jours.
Elle continue sur la ligne de Sébastien Lecornu. C'est vous qui déciderez par vos amendements, mais elle a rejeté d'un revers de main des amendements qui ont été votés.
Pour le groupe Rassemblement national.
Bénédicte Ozanou, députée du Vaucluse.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Le 1er novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a signalé à la justice la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine après avoir constaté leur présence sur le site chinois de vente Shein. Le caractère pédopornographique de ces poupées ne fait aucun doute. Hier, sur l'autre site chinois de commerce en ligne, AliExpress, des poupées également à caractère pédopornographique étaient toujours en vente ou venaient d'être retirées. On aimerait croire qu'il s'agit là d'un scandale sans précédent. Il n'en est rien, hélas. En effet, en 2020 déjà, Amazon avait été dénoncé pour la vente de poupées enfantines à caractère sexuel. 5 ans plus tard, il apparaît que rien n'a été fait d'efficace pour interdire ces ventes abjectes qui piétinent la morale et qui méprisent toute forme de décence commune. Le président de la République avait annoncé que la protection de l'enfance serait l'enjeu majeur de son deuxième quinquennat. Nous sommes en 2025. Là encore, la Macronie n'aura été que communication. Je souhaite donc savoir, Madame le Ministre, quelles sanctions vont être appliquées aux sociétés Shein et AliExpress? Dans quel délai les listes d'acheteurs seront remises aux forces de police? Et enfin, et surtout, quelles mesures le gouvernement va prendre sans tarder afin que de tels faits ne puissent plus jamais se reproduire sur aucune plateforme de commerce en ligne accessible en France?
Bénédicte Ozanou, députée du Vaucluse. Elle a 53 ans, elle vient de Cavaillon. Elle est ancienne assistante juridique et elle fait partie des députés fantômes de l'Assemblée nationale. Elle n'a aucune activité connue depuis novembre 2024. Bon, bah là, elle a posé une question. C'est un bon début.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel on peut éviter les polémiques, c'est celui-là. Il est grave, il est très grave. Et je tiens quand même à rappeler, que celles et ceux qui ont identifié la fraude vendredi, ce sont des agents de l'État, et celui qui a immédiatement saisi la justice pour qu'elle se saisisse, si je puis dire, de ce sujet, c'est le ministre Papin. La raison pour laquelle je vous dis évitons les polémiques, c'est vous dites, Madame la députée, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? En 2024, il y a une loi qui a été votée au sein de cet hémicycle. Et je ne sais pas si vous avez voté pour ou contre. Ce que je sais, c'est que la majorité a voté pour. Et que cette loi, elle a complété le dispositif juridique qui fait que j'ai pu dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Que si ces comportements venaient à être répétés, notre main, effectivement, ne tremblerait pas et nous appliquerions la loi. Il y a une chose que je peux vous confirmer, vraiment, c'est qu'on ne tremblera pas. Mais qu'on le fera contrairement à ces acteurs en respectant la loi que vous avez votée. Et donc, oui, si ces comportements sont répétés, oui, si ça venait à se reproduire et que dans les 24 heures, les produits n'étaient pas retirés, nous serions en droit de demander aux fournisseurs d'accès de couper l'accès de ces plateformes à la France. Nous avons saisi l'ARCOM, qui est le gendarme. Mais oui, alors voilà, je m'attendais à ça. L'ARCOM
pour le RN, c'est le diable.
Important, et ne vous en déplaise, c'est une autorité indépendante qui est là pour protéger les consommateurs. Et vous pouvez en rire, nous disposons d'un arsenal précis, il est complet, il s'appliquera, et j'espère que ni les juges, ni l'ARCOM, mais en tout cas en ce qui concerne le gouvernement, c'est clair, les mains ne trembleront. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame la députée, il vous reste quelques secondes.
Je peux reprendre ? Allez-y, oui, merci. Oui. Donc ça fait déjà deux fois, votre blin ne tremblera pas. On espère que la troisième, vous saurez agir.
Merci beaucoup.
Parle pour toi. C'est bon, j'arrête.
Agnès Poussier-Vinsbach pour le groupe Horizon.
Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, députée de Seine-Maritime.
Ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, vous avez proposé il y a quelques jours de revoir la fiscalité de l'intéressement pour que les Français puissent l'utiliser plus facilement dans leur consommation quotidienne. Autrement dit, monsieur le ministre, vous voulez inciter les Français à puiser dans leur épargne salariale pour boucler leur fin de mois. Cette proposition nous étonne au groupe Horizon et Indépendants. De Fécamp à Bolbec et dans toute ma circonscription, quand je rencontre des salariés, ils me disent tous la même chose. Ils veulent vivre de leur travail, pas de leur épargne. Ils veulent que leur salaire augmente, que le travail paye mieux, qu'il y ait moins de différence entre le brut et le net sur leur bulletin de salaire. Les chefs d'entreprise, eux, me disent également qu'ils aimeraient bien augmenter les salaires, mais qu'ils sont étouffés par les charges, les normes et inquiets de l'instabilité fiscale. Dans ce contexte, cette idée paraît simplement opportuniste. L'intéressement n'est pas un complément de salaire. C'est une part de valeur partagée, un outil qui permet à des millions de Français d'acheter leur logement, de préparer leur retraite, de sécuriser l'avenir de leurs enfants. En incitant à consommer immédiatement, vous risquez de transformer une épargne de précaution en revenu de survie. De plus, monsieur le ministre, changer la loi alors que les nouvelles règles en la matière ne sont applicables que depuis quelques mois serait périlleux. Surtout, nous détournons le regard des vrais sujets. Des salaires trop faibles, des charges trop lourdes, des normes trop nombreuses. Les Français n'attendent pas, monsieur le ministre, qu'on les incite à vivre sur leurs économies. Ils attendent qu'on leur permette de vivre dignement de leur travail. Alors, monsieur le ministre, mes questions sont simples. Plutôt que de demander aux Français de payer leurs courses avec leur épargne, comment...
Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, députée de Seine-Maritime, elle a 58 ans, elle a été professeure d'économie au lycée Saint-Joseph du Havre et elle a fait basculer à droite la mairie de Fécamp en 2014, après 25 ans de gouvernance PS. Elle a quitté les Républicains pour rejoindre Horizon et rejoindre le maire du Havre.
Merci Madame la Présidente.
Qui s'appelle ?
Messieurs les députés.
Édouard Philippe.
Madame la Ministre... Poussier-Vinsbach, vous avez raison sur le constat. Il y a un problème de coût du travail en France et d'excès de normes. C'est un enjeu de compétitivité pour nos entreprises. Évidemment, tout le monde voudrait augmenter les salaires nets en baissant les charges. Et donc, ça, c'est un modèle social qui fait reposer la protection sociale sur les salariés. Parlons-en. D'ailleurs, peut-être que les prochaines échéances seront l'occasion d'y travailler. D'ici là, je voudrais partager mon constat qui sonne comme un paradoxe. Le pouvoir d'achat est une priorité des Français et beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ils le disent. Le taux d'épargne, paradoxalement, atteint des sommets en France et n'a jamais été aussi haut. C'est un des plus gros d'Europe. Et pour répondre à ce que j'ai proposé, justement, c'est de simplifier les mécanismes de partage de la valeur en passant par une défiscalisation des sommes distribuées immédiatement dans le cadre de l'intéressement. Et le partage...
Vous avez de l'épargne, vous ?
C'est un fort...
Vous avez des petits bas de laine ? Vous avez un peu de fric de côté, là ? Vous avez mis du fric à gauche ?
Entre les salariés et leur entreprise, et à l'heure où précisément nous avons besoin de tous regarder dans la même direction, salariés et chefs d'entreprise, et le partage de la valeur...
Eh ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne, alors.
...d'associer les salariés à la performance de l'entreprise, d'attirer et de fidéliser des meilleurs recrues et surtout de favoriser le dialogue social. Et si globalement tout le monde partage ces mêmes objectifs, les outils du partage de la valeur ne sont pas assez répandus. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté parce que l'intéressement, par exemple, il n'est utilisé que pour 10% des entreprises dans les moins de 49 salariés. Donc il faut aller plus loin. C'est une bonne occasion aussi.
Merci, monsieur le ministre.
Voilà. Donc,
c'est deux minutes.
C'est une proposition.
On te l'a dit, Serge.
Du pouvoir d'achat.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Madame.
Merci pour vos abonnements. Merci. Merci de claquer votre épargne salariale.
La parole est
pour l'utiliser pour développer l'activité économique en France.
Sociale.
Benoît Biteau, pour le groupe écologiste.
Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour sous-transposition des règles européennes dans sa déclinaison de la politique agricole commune. La PAC dont nous parlons n'était déjà pas ambitieuse. Aucune conditionnalité à des pratiques agricoles qui soient en adéquation avec les enjeux de notre temps, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, menace sur la santé. Et même dans cette mouture déjà insuffisante, la France réussit la prouesse de proposer une déclinaison nationale de la PAC qui n'est pas à la hauteur. Ceux qui produisent sont tués ce qu'il nous reste de pollinisateurs et d'oiseaux, sans endommager la fertilité des sols. Ceux qui produisent sans imposer leurs pesticides aux riverains, ceux-là, vous les avez abandonnés en rase campagne. Ça a commencé en 2017 avec la fin des aides au maintien à l'agriculture biologique. Ça a continué avec la mise en concurrence déloyale avec le label HVE qui, en plus d'induire le consommateur en erreur, siphonne les aides à l'agriculture biologique. La réalité, c'est qu'il faut avoir les reins drôlement solides pour continuer de produire dans le respect de la santé, mais aussi du climat et de la biodiversité, pourtant indispensable pour espérer en une souveraineté alimentaire, quand votre gouvernement préfère perfuser les pratiques aux antipodes des alertes scientifiques et des attentes sociétales. Pourtant, cet été, 2 millions de concitoyens se sont mobilisés pour demander sur ce sujet un véritable débat de société. Alors, monsieur le Premier ministre, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et après avoir ignoré ces évidences, ce jugement de la Cour de justice de l'Union européenne va-t-il enfin permettre de refondre...
Benoît Biteau, député de Charente-Maritime, il a 58 ans, il est agriculteur, producteur de maïs et éleveur de race locale. C'est un militant agro-écologique qui lutte pour le respect des ressources et du patrimoine naturel. Il fait partie d'Europe Écologie Les Verts et il a publié des enquêtes sur Monsanto et sur les pesticides. Il pose une question sur la sous-transposition de la PAC, la politique agricole commune.
C'est un constat qui n'est pas celui de la réalité en matière de soutien aux pratiques environnementales et climatiques en matière d'agriculture. Vous ne pouvez pas affirmer que la politique agricole commune n'a pas verdi ses instructions. C'est absolument faux. Et j'en veux pour preuve, le taux environnemental du PSN pour ce qui est des pratiques encouragées par la PAC, est de 31%. Ça veut dire que un tiers du budget est consacré à de nouvelles pratiques répondant aux enjeux climatiques et environnementaux. Et dernièrement encore, dans l'attribution des reliquats de la PAC, nous avons affecté des fonds à l'agriculture biologique. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, nous avons chiffré sur le budget 2025 près de 700 millions d'euros dédiés à l'agriculture biologique. Et dans la nouvelle PAC, il nous appartiendra de continuer à valoriser des pratiques qui correspondent aux enjeux pour la protection des sols, pour la protection de l'environnement, pour valoriser et aider les agriculteurs à pouvoir mieux produire, parce qu'il faut produire au regard de la souveraineté alimentaire, il faut produire tout en respectant davantage notre environnement. Je crois, et je vous le redis, monsieur Biteau, je vous l'ai dit souvent pendant les débats, il est contre-productif, illusoire, stupide d'opposer environnement et agriculture. Et les agriculteurs sont les premiers à savoir qu'ils travaillent avec la nature, qu'ils travaillent en respectant le vivant. Et vous savez aussi que la diminution du recours aux produits phytosanitaires est une réalité. Elle est chiffrée, elle est parfaitement identifiée. Merci. Ayez l'honnêteté de le reconnaître.
Merci beaucoup, madame la ministre, monsieur le député.
Madame la ministre, vous venez de remettre en cause une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et la souveraineté alimentaire, c'est le respect du climat et le respect de la biodiversité. Sans climat et sans biodiversité.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Daniel Labaronne pour le groupe Ensemble pour la République.
Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. En 2023, une directive européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs a été votée et transposée en France par une ordonnance du 4 septembre 2025. Applicable dès le 20 novembre 2026, elle a provoqué une vive émotion chez nos collègues insoumis qui ont annoncé à corps et à cri, à grand renfort de tweets et de pétitions, que le gouvernement voulait interdire les découverts bancaires à l'aide de cette directive. Ironie du sort, cette directive a été votée par leur camarade Manon Aubry au Parlement européen, qui disait que cette directive, je la cite, « va dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs ». C'est notre collègue Michaël Boulou, que je salue, qui a été responsable du texte et a contribué à sa transposition dans la loi française. Il a bien fait, puisqu'il s'agit d'une directive d'harmonisation maximale, laissant peu de marge d'adaptation nationale afin de garantir une cohérence européenne du crédit à la consommation. Alors de quoi parle-t-on ? D'un texte européen de protection des consommateurs ou d'une fake news taillée sur mesure pour détourner l'attention en plein débat budgétaire ? Revenons aux faits. L'ordonnance n'interdit en rien les découverts bancaires. Avant ce texte, la demande de découvert était déjà obligatoire. Aujourd'hui, l'analyse de solvabilité pour les autorisations de découvert est déjà une obligation pour toutes les demandes de découvert supérieures à 1 mois ou 200 €. Le principal changement est l'extension de cette obligation d'analyse de la solvabilité pour les autorisations de découvert inférieures à 1 mois et/ou 200 € lorsque l'autorisation est déjà mise en place.
Daniel Labaronne, député d'Indre-et-Loire, du côté d'Amboise, très joli Amboise. Il a 70 ans, il a été maître de conférences en économie à l'université de Bordeaux, spécialiste de la gouvernance des entreprises publiques. C'est un soutien historique d'Emmanuel Macron dès 2016, défenseur du courant libéral de Renaissance, très opposé à la taxation des grandes entreprises. Et il pose une question sur la directive découvert bancaire. On écoute Roland Lescure.
Merci, monsieur le député Labaronne, de me laisser l'occasion de démentir de manière ferme, stricte et j'espère définitive. Je suis Baudor que j'aurai peut-être d'autres questions. Oui. Mais j'espère définitive l'immense amas de fausses nouvelles qui circulent sur cette directive dont je rappelle, vous l'avez rappelé, qu'elle a été votée par tous les représentants au Parlement européen de tous les groupes présents ici.
Ah ouais ?
Alors, on peut changer d'avis. Il y a eu 7 votes contre sur ce 700 parlementaires. Alors, vous me les trouvez. Si un seul parlementaire européen français a voté contre cette directive, envoyez-le-moi. Monsieur Bardella, qui a corrigé son vote parce que je pense qu'il avait commis une erreur en appuyant sur le bouton. Il n'y a pas plus unanime que cette directive. Et pourquoi ? Mais parce qu'elle protège les consommateurs, parce qu'elle impose en Europe des règles qui existaient déjà en France. Vous devriez être fiers qu'en France, on protège plutôt bien les consommateurs et qu'on convainque le reste de l'Union européenne de s'inspirer de nos bonnes pratiques. Première fake news, les découverts n'étaient ni automatiques ni interdits avant cette directive. Ils ne seront, après cette directive, ni automatiques ni interdit. Supprimez la fameuse pétition. Deuxième fake news, les découverts ne seront évidemment examinés et dans l'intérêt du consommateur une seule fois. Vous n'allez pas, à chaque fois que vous faites un découvert parce que votre machine à laver tombe en panne ou parce que c'est la rentrée scolaire, demander un découvert, une fois pour toutes. Troisième fake news, zéro surtransposition. Vous l'avez dit, monsieur le député.
Une surtransposition, c'est quand un État membre va plus loin que la directive dans sa transposition.
Avec quelques options. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, non, sur toutes les options...
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
C'est deux minutes. C'est ça.
La parole est à monsieur Aurélien Pradié.
Aurélien Pradié, dis donc. Aurélien Pradié qui est non inscrit. Il a quitté les Républicains.
Présidente.
Il est tout seul.
En soi-même.
Il est dans aucun groupe.
À ce stade, c'est très suffisant. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pour obtenir la clémence d'une partie de cette Assemblée, vous avez annoncé suspendre la réforme des retraites. Après que votre prédécesseur, Madame Borne, ait martelé matin, midi et soir devant les Français que cette réforme était vitale, elle vous a elle-même demandé la suspension. À l'heure des négociations de survie, qu'importe la crédibilité, l'essentiel, c'est le deal. Je n'ai pas soutenu cette réforme. J'étais convaincu qu'elle ne sauverait en rien notre système de retraite.
Rappelez-vous, il a voté contre.
Il faut tout réformer. Et en annonçant la suspension, vous l'avez prouvé. Dans cette facilité comptable, cette réforme est passée à côté de l'essentiel, le respect du travail. Nous avons été nombreux sur ces bancs à nous mobiliser pour défendre les carrières longues et les travailleurs les plus méritants. Ces travailleurs qui ont débuté leur carrière très jeune, souvent dans des métiers difficiles, paient l'essentiel de la réforme. Si on respecte l'effort, le travail et les métiers les plus rudes, on ne punit pas les carrières les plus longues. Celui qui débute tôt doit finir tôt. Vous allez donc suspendre cette réformette. Oui, mais en l'état, pas pour les carrières longues et pas pour les travailleurs en invalidité. Résumons. La pseudo-conquête sociale que représenterait la suspension de la réforme permettra donc aux cadres nés en 64 ou 65 de gagner 3 mois de cotisation. Alors que l'ouvrier qui aura débuté sa carrière à 17 ans, avec toutes ses cotisations, lui devra travailler un trimestre de plus. Tout ça, pour ça, c'est absurde. Que des groupes politiques acceptent de devenir dindons consentants de ce faux marchandage est une chose. Mais que la tromperie affecte la vie réelle des Français, c'est insupportable. La vraie responsabilité, c'est de ne pas tromper les travailleurs. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Combien de temps encore allez-vous traiter les Français comme des imbéciles et les tromper sur l'autel des marchands?
Aurélien Pradier, le député du Lot, 39 ans, ancien député des Républicains qui a quitté le groupe en 2024, qui pose une question sur la réforme des retraites.
Madame la Présidente,
et sur les carrières longues.
Messieurs les députés, monsieur le député Aurélien Pradier, le Premier ministre a fait le choix du compromis et de la stabilité en inscrivant la suspension de la réforme de 2023 jusqu'au 1er janvier 2028 dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale que nous allons examiner en séance à partir de ce soir. Monsieur le député, vous l'avez rappelé, il semble effectivement que vous étiez opposé vous-même à la réforme 2023 à l'époque. Vous souhaitez y ajouter des mesures plus sociales. Sur le sujet des retraites et de leur évolution, le Premier ministre a pris la parole dans cet hémicycle vendredi pour rappeler que nous étions ouverts aux amendements qui feraient évoluer le texte initial. Nous regarderons attentivement ce qui vise à dégeler les pensions et les minima sociaux. Vous m'interrogez sur les modalités techniques d'application de la mesure. Cette mesure est une promesse du Premier ministre et du gouvernement. Nous ferons le nécessaire le moment venu. Pendant le débat, il n'est pas question ni de tricher ni de leurrer qui que ce soit. Il est question de débattre et d'évaluer le coût de la mesure et des contributions pour prendre en charge les coûts qui résulteront de ce débat. Mesdames et messieurs les députés, sur les retraites, comme sur le reste du budget, le débat aura donc bien lieu. Et il permettra, je l'espère, de converger pour un vote du PLFSS 2026 amendé par vos soins. Cette suspension ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas engager une réflexion collective sur le système actuel. Bien au contraire, le temps de la suspension doit être un temps utile.
À la suspension de la réforme des retraites.
La feuille de route que nous avons fixée ce matin avec les partenaires sociaux dans le cadre de la conférence Travail-Emploi-Retraite lancée à la demande du Premier ministre nous permettra d'éclairer tous ces débats. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Nadège Abou-Mangoli pour le groupe La France Insoumise.
Nadège Abou-Mangoli, députée de Seine-Saint-Denis.
Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Ils sont loin, ils sont africains, ils sont pauvres et l'Union africaine s'en lave les mains. 150 000 morts, 13 millions de déplacés, les viols, la famine, le choléra. Voilà le bilan apocalyptique de la guerre civile soudanaise depuis 2023. Le général Al-Burhan, à la tête de l'armée dite régulière et Emeti, le chef des forces de soutien rapide, FSR, massacre et pille. Et pendant que l'Union européenne est aux abonnés absents, la diplomatie française regarde aussi ailleurs. C'est l'ampleur des atrocités commises par les FSR à El Fasher dans le Darfour du Nord qui a remis le Soudan au cœur de l'actualité médiatique et diplomatique. Les espoirs nés de la révolution citoyenne de 2019 sont noyés dans le sang par Emeti et Al-Burhan, poussistes ensemble en 2021, ennemis mortels aujourd'hui.
Le commandant des forces de soutien rapide, bourreau du Darfour, était pourtant devenu un interlocuteur privilégié de l'Union européenne en 2016 et valorisé dans la presse française jusqu'en 2023. Les Nations unies dénoncent les ingérences étrangères intéressées par l'or soudanais et les débouchés maritimes dans la pire crise humanitaire au monde. Fin 2024, Amnesty International indiquait que du matériel militaire français était utilisé par les miliciens des Métis. Comment est-ce possible? J'ai interrogé par deux fois le gouvernement à ce sujet, pas de réponse. Monsieur le ministre, devant de tels crimes contre l'humanité, le silence et l'inaction sont-ils devenus la ligne directrice de la diplomatie française? Agirez-vous donc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour un embargo total sur les armes élargi au-delà du Darfour, pour un cessez-le-feu et pour la mise en place d'un corridor humanitaire? Soutiendrez-vous la création d'une force d'interposition? Et enfin, soutiendrez-vous les Emergency Rooms, nommés pour le prix Nobel de la paix, ces forces d'intervention citoyenne qui luttent pour un pouvoir civil démocratique au Soudan?
Nadège Abomongoli, députée de Seine-Saint-Denis du côté d'Aulnay-sous-Bois. Elle a 50 ans, elle a bossé aux affaires juridiques de la mairie de Paris, c'est une ancienne socialiste, et elle a rejoint les Insoumis. Elle pose une question sur la guerre civile au Soudan.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nadège.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères.
Effectivement, c'est dans une grande indifférence que se déroule au Soudan l'une des guerres les plus meurtrières du monde, la crise humanitaire la plus grave du monde, un calvaire sans fin depuis 2 ans et demi pour les Soudanaises et les Soudanais. 2/3 de la population en situation d'urgence alimentaire, 13 millions de personnes déplacées, dont 4 millions d'enfants. Mais non, Madame la députée, la France ne détourne pas le regard, parce qu'un an après le début de cette guerre civile, c'est à Paris que la communauté internationale s'est réunie pour lever 2 milliards d'euros d'aide humanitaire au profit des populations soudanaises. Et je me suis moi-même rendu dans les camps d'Adré, à la frontière entre le Soudan et le Tchad, l'année dernière, où près de 300 000 réfugiés soudanais, dans des camps surpeuplés, tentent de trouver de l'aide et du soutien auprès des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies que je suis venu encourager pour vérifier le décaissement des sommes que nous avions levées. Et cette année encore, pour le deuxième triste anniversaire de cette guerre, la France co-présidait à Londres une conférence humanitaire sur le Soudan. Mais oui, depuis quelques jours, la situation s'est dégradée plus encore, avec la prise par les forces de soutien rapide de la ville d'El Fasher et un certain nombre d'exactions qui ont été commises depuis. 2000 personnes auraient été froidement exécutées, 460 personnes ont été tuées dans l'assaut mené par les forces de soutien rapide contre une maternité il y a quelques jours. Dans ce contexte, nous condamnons les atrocités à caractère ethnique qui sont menées par les forces de soutien rapide. Nous les exhortons à mettre fin à leur offensive militaire dans le nord du pays. Nous appelons toutes les parties à cesser tout soutien militaire à l'égard des belligérants et nous exigeons le respect du droit international et du droit international humanitaire.
Mobilisation de la France d'après Jean-Noël Barrot.
Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu sur la question de l'embargo sur les armes. Il faut assécher le trafic d'armes au Soudan. Sinon, ça ne servira à rien. Et par ailleurs, les budgets de la diplomatie française sont à la baisse. Comment allons-nous financer tout cela?
Merci beaucoup, Madame la députée.
Pas de réponse, effectivement, sur la question des armes.
Madame Sandra Delannoy pour le groupe Rassemblement National.
Jamais de réponse sur les armes.
Merci, Madame la Présidente.
Sandra Delannoy pour le RN.
Êtes-vous fière de nos agriculteurs, de leur savoir-faire, de l'excellence française? Êtes-vous reconnaissante de leur engagement, de leur charge de travail, de leur responsabilité assumée au détriment de leur vie personnelle? Ne laissez pas le président vendre l'excellence de notre agriculture comme il a bradé notre industrie. Dès le début, nous avions annoncé que le président trahirait les agriculteurs. Il a ainsi inventé des pseudo-clauses de sauvegarde complexes et inexplicables et inapplicables, ouvrant grand la porte à une concurrence déloyale. C'était une trahison programmée. Vous évoquez les gains pour nos exportations de vins et spiritueux, mais dites clairement que 180 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre et 100 000 tonnes de bœuf aux normes bien différentes des nôtres vont inonder le marché. Venez avec moi parler aux agriculteurs du Nord. Avouez, Madame la Ministre, que vous doutez vous-même de cet accord, puisque vous prévoyez déjà un fonds d'indemnisation de 6,3 milliards d'euros. Les eurodéputés de tous bords sont si sceptiques qu'ils demandent l'avis de la Cour de justice européenne sur la scission de l'accord. Nous, au Rassemblement national, Appelons les agriculteurs à se mobiliser s'ils sont touchés au cœur de leur activité. Tout n'est pas perdu. En effet, Madame la Ministre, vous qui vous érigez en défenseur des intérêts agricoles français, si nos agriculteurs sont impactés négativement par le Mercosur, soutiendrez-vous ceux qui feront un recours en annulation tel que prévu par l'article 263, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? Madame le Ministre, ne les laissez pas tomber. Soutenez-les dans leur démarche.
Sandra Delannoy, députée du Nord, du côté de Maubeuge. Elle a 51 ans. Elle est ancienne torréfactrice pour les Cafés Delannoy, un commerce de torréfaction et de café artisanal familial. Elle pose une question sur les accords Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine.
Je vais vous livrer un scoop, Madame la députée. La France est contre l'accord tel que l'a négocié la Commission il y a un an à Montevideo. Nous l'avons redit avec le Premier ministre au commissaire européen, Christophe Hansen, chargé de l'agriculture, qui est venu à Paris la semaine dernière. La France a une ligne rouge et claire, le soutien de ses intérêts agricoles. Et la France aura la même ligne rouge sur la PAC dans le prochain budget européen, sur le Mercosur comme sur d'autres sujets. Sur l'accord avec le Mercosur, il faut des garanties nouvelles. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. La Commission a répondu en partie à la mobilisation de la France en ajoutant une proposition législative sur un mécanisme de suspension des importations en cas de chute des cours due à l'entrée massive de produits venus de ces pays. Cette clause pose des questions, je vous rejoins, et nous n'avons pas eu de réponse à toutes nos préoccupations. Au-delà de cette clause, il y a un problème de fond sur cet accord. Oui, il y a des filières gagnantes, vous avez évoqué les vins et les spiritueux, elles sont nombreuses, y compris dans le monde agricole, avec cet accord. Mais aucun consommateur, aucun citoyen, aucun agriculteur ne peut entendre que ce qui est interdit en Europe, pour d'impérieuses raisons sanitaires ou environnementales, serait subitement toléré pour des produits importés. C'est injuste pour nos agriculteurs, c'est incompréhensible pour les consommateurs. C'est pour cette raison que la France exige l'adoption de mesures miroirs exigeantes. Soyons simples, tout pesticide introduit, interdit en Europe, ne pourra être utilisé sur des produits importés. De même pour les produits animaux,
ça me paraît évident, ouais.
Similaires doivent s'appliquer. Et la Commission doit mettre le paquet sur les contrôles des produits importés.
Merci.
Vous voyez, Madame la députée,
merci,
notre
madame.
Détermination est intacte, le combat continue.
Merci beaucoup, Madame la députée.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous soutiendrez chaque agriculteur dans chaque recours, puisqu'il doit se présenter seul, madame?
Il n'y a pas d'action de groupe pour les agriculteurs?
La parole est à présent Madame Karine Lebon pour le groupe GDR.
Karine Lebon, la députée de La Réunion.
Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, avec votre ordonnance sur le découvert bancaire, vous condamnez des millions de foyers à une précarité encore plus grande. Pour beaucoup de nos concitoyens, le découvert représente malheureusement un souffle, un filet de survie qui leur permet de faire face aux dépenses du quotidien, d'atteindre la fin du mois sans sombrer. Les chiffres sont clairs. Près d'un Français sur cinq est à découvert chaque mois, d'après le dernier baromètre de la précarité en France. Les territoires ultramarins qui subissent des taux de pauvreté records et qui sont frappés par des frais bancaires bien plus élevés que dans l'Hexagone seront les premiers impactés par cette mesure. 36%, c'est le taux de pauvreté à La Réunion où la survie des familles dépend en grande partie de cette autorisation de découvert. En durcissant ces règles d'accès, vous privez les plus modestes d'un outil vital. Ceux qui n'y auront plus droit se tourneront fatalement vers les sociétés de crédit à la consommation, avec des taux d'intérêt exorbitants. Résultat, davantage de dettes, davantage de surendettement, davantage de drames humains. Et tout cela décidé par un Conseil des ministres déconnecté de la réalité des Françaises et des Français qui comptent chaque euro. L'Union européenne n'a jamais exigé une telle sévérité. Pas de mention de 200 euros dans le texte européen qui visait à renforcer la protection des consommateurs. Vous en avez dévoyé l'esprit. Ce qui devait les protéger devient une arme contre les plus fragiles. Vous réduisez la survie de nos concitoyens à une simple question de solvabilité et aux décisions unilatérales des banques. Monsieur le ministre, on n'extermine pas la pauvreté en exterminant les pauvres. Attelez-vous enfin à une politique de redistribution juste des richesses. Mais vous n'en prenez pas le chemin. Les Français l'auront définitivement compris. Donnez le pouvoir à un banquier, il donnera ce pouvoir aux banques.
Karine Lebon, députée de La Réunion du côté de Saint-Paul. Elle a 40 ans, elle est professeure des écoles. Elle a aussi été actrice pour des programmes courts de France O et pour les publicités. Elle pose une question à nouveau sur les découverts bancaires.
Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Karine Lebon. Vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé. Vous colportez des fausses nouvelles. Ce qui... Et je vais tenter de vous éclairer, Madame la députée. Ce que fait cette directive européenne, que j'imagine vous avez lue, c'est qu'elle généralise à l'Union européenne des pratiques qui sont déjà présentes en France. En France, les banques étaient déjà obligées, au-delà de 200 euros, de faire une analyse systématique, une fois pour toutes, systématique, une fois pour toutes, de la capacité d'un ménage à pouvoir vivre avec des découverts, et une fois pour toutes. Et j'allais dire, heureusement, parce qu'au fond, évidemment, cette directive ne les rend pas automatiques, ils n'étaient pas automatiques avant, mais ça permet d'encadrer les conditions qui font qu'on autorise ces découverts, pour éviter qu'ils soient trop importants. Je vais venir aux frais, parce que c'est très important, monsieur le député. Pas d'interdiction, pas d'automaticité, avant, après la directive, ça ne change rien. Ce que ça change, c'est qu'en dessous de 200 euros, une analyse qui était de fait déjà effectuée par les banques va l'être de manière systématique. Et ce que ça change, madame la députée, vous avez parlé des frais, c'est que jusqu'à présent, une banque pouvait prendre un frais fixe allant jusqu'à 5 euros par découvert, sur un découvert qui parfois ne représentait que quelques euros. Vous pouvez vous retrouver dans une situation, y compris dans les territoires dont vous parlez, avec des découverts de 10, 15 euros sur lesquels la banque était en droit de prendre jusqu'à 5 euros de découvert, plus le taux d'intérêt. Ces forfaits fixes, ils sont désormais interdits. Si tous les groupes parlementaires représentés au Parlement européen ont voté contre cette directive, c'est peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça.
Pour,
si
pas contre.
Si les gens votent à Bruxelles pour des réglementations qu'on retranscrit dans le droit français, pour la directive européenne, il y a
merci, Roland.
Des parlementaires européens, merci, aucun de vos groupes. S'il vous plaît, évitons les fake news.
Beaucoup,
s'il vous plaît.
Merci, Madame la députée.
Karine Bon.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le découvert moyen des Français est de 411 euros par mois. Pourquoi avoir fixé ce seuil à 200 euros ?
Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Jean-Carl Grelier pour le groupe démocrate.
Merci, Madame
Jean-Carl Grelier.
Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, sans doute comme moi, avez-vous lu hier le rapport rendu par la Cour des comptes qui décrit la trajectoire mortifère qu'emprunte depuis quelques années, et cette année encore, le financement de notre système de protection sociale. Sans doute avez-vous lu comme moi dans ce rapport que les termes employés par la Cour des comptes, les sages de la rue Cambon sont d'une exceptionnelle gravité. Désormais, toutes les branches de l'assurance maladie, en passant par la famille, en passant par les retraites, en passant par l'accident du travail, sont déficitaires, à l'exception de la branche famille, dont il ne faut pas se réjouir parce qu'elle est le signe d'une natalité et d'une démographie catastrophique. Alors, Madame la Ministre, au moment où vont s'ouvrir,
j'avais pas pensé à ça,
dans quelques minutes, les débats sur la loi de financement de la sécurité sociale, quelle garantie nous donnez-vous que ces débats ne seront pas un Munich de la santé dans lequel nous n'aurions collectivement que la guerre et le déshonneur ? Madame la Ministre, quelle garantie nous donnez-vous que dans les débats qui vont s'ouvrir la loi de financement de la sécurité sociale, nous aurons collectivement partagé avec le gouvernement ce degré de responsabilité qui nous permettra de donner la certitude aux Françaises et aux Français qu'il y aura demain, en 2026, en 2027 et en 2029 encore, une sécurité sociale pour les Françaises et les Français. Avec le groupe démocrate, Madame la Ministre, nous vous y invitons. Montons d'un cran.
Jean-Charles Grelier, député de la Sarthe du côté du Mans. Il a 59 ans, il est avocat spécialiste en droit hospitalier, ancien jeune giscardien.
Présidente, monsieur le député.
Il a été maire de La Ferté-Bernard.
Merci pour votre question. Nous allons démarrer ensemble ces débats du budget de la sécurité sociale cet après-midi. Notre sécurité sociale qui fête ses 80 ans cette année et face à laquelle nous avons un enjeu collectif, un enjeu de pérenniser le haut niveau de protection sociale qu'ont les Français. Nous avons cette année un déficit à 23 milliards. Notre engagement est de le diminuer. Dans la copie qui vous est proposée, il est prévu à 17 milliards en 2026, mais là aussi, vous allez en débattre et voter. Malgré ce contexte difficile et ces mesures de freinage qui entraînent un effort partagé de tous, il y a aussi des augmentations des dépenses de la santé de 5 milliards dans cette copie qui vont notamment permettre de financer les réformes structurelles sur la prévention, mais aussi la labellisation des maisons France Santé qui permettra d'amener de l'accès aux soins d'un médecin proche de 30 minutes des Français et avec un rendez-vous dans les 48 heures. C'est aussi ça qu'attendent nos concitoyens. Mais vous avez raison, nous devons avoir une volonté commune pour notre sécurité sociale. Et cette volonté commune, elle s'inscrit aussi, je le crois, dans une visibilité pluriannuelle que vous exprimez dans votre question. Et je vous rejoins. D'ailleurs, pour cette raison, d'ici la fin de l'année, je pourrais proposer l'investissement sur les 10 prochaines années pour les établissements de santé, parce que ces établissements de santé ont aussi besoin de porter des projets, de perspectives. C'est là aussi notre responsabilité.
Stéphanie Rist, elle est ministre de la Santé. Elle a 52 ans. Elle est médecin hospitalier rhumatologue, ancienne chef de service au CHR d'Orléans.
Pour le groupe La France Insoumise.
Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Monsieur le Premier ministre, le président Macron vient de décider d'interdire de fait les découverts bancaires. La directive adoptée au Parlement européen prévoyait la protection des consommateurs. Macron en a fait une ordonnance de flicage social. Vous ne luttez pas contre la pauvreté, vous luttez contre les pauvres. Ne plus pouvoir être temporairement dans le rouge, c'est le renoncement assuré d'abord aux loisirs, ensuite aux petits plaisirs et puis finalement jusqu'aux besoins essentiels, les repas par exemple. Vos adversaires, ce sont les 12 millions de Français qui en ont besoin tous les mois. Alors évidemment, les plus riches pourront, eux, toujours être à découvert. Mais pour celles et ceux dont le budget tient à l'euro près, le moindre accident de la vie, une panne de voiture, une rage de dents, le salaire qui tombe avec une semaine de retard, et ce sera tout un équilibre précaire qui s'effondre. Comme la vie des gens vous indiffère, je vous donne des chiffres. Toute personne dont les charges fixes, factures et loyers compris dépasseront 30% des revenus se verra refuser d'être à découvert. Quelqu'un qui est au SMIC, donc, au-delà de 430 euros de charges par mois, ce sera interdit. Quelqu'un qui gagne 2000 euros, au-delà de 600 euros de charges par mois, ce sera interdit. Vous condamnez donc la majorité des Français, soit aux privations, soit aux agios. On pourrait pourtant empêcher les deux. Il ne faut pas interdire les découverts bancaires, il faut augmenter les revenus et plafonner les frais bancaires. Votre bilan, c'est 1 million de pauvres en plus, un parent sur 3 qui se prive de repas pour nourrir ses enfants, un étudiant sur 2 à qui il reste 100 euros par mois après avoir payé ses charges, et la situation va empirer avec votre budget de malheur. Vous avez parlé de fausses informations, nous relayons de vraies inquiétudes. Les associations de consommateurs, les 50 000 personnes qui ont déjà signé notre pétition.
Clémence Guettet, députée du Val-de-Marne du côté de Créteil, elle a 34 ans, elle a été secrétaire générale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale avant de devenir députée. Elle a été la coordinatrice du programme L'Avenir en commun pour la présidentielle de 2022, coprésidente avec Jean-Luc Mélenchon de l'Institut La Boétie, le groupe de réflexion lié à la France Insoumise. Et elle pose une question à son tour sur les découverts bancaires.
Si votre pétition était juste, je la signerais. C'est un tissu de mensonges. Rien dans cette directive dont je rappelle que Madame Aubry et l'ensemble de votre groupe l'a voté, n'interdit les découverts. Vous trompez les Français, vous jouez sur les misères des uns et des autres. Les découverts n'étaient pas interdits avant cette directive. Cette ordonnance, elle retranscrit en droit français à la lettre la directive. Et vous racontez, Madame la vice-présidente et Monsieur Bernalicis derrière, désolé, absolument n'importe quoi. N'importe quoi. La seule chose qui, je pense, explique la raison pour laquelle vos parlementaires ont voté pour, c'est que, justement, les agios auxquels vous faites référence, grâce à cette ordonnance, signée en effet par le président de la République, adoptée en Conseil des ministres, elle les baisse, les agios, elle les baisse. Alors, si vous voulez supprimer cette directive, n'hésitez pas. Montez les agios. Il n'y a rien dans cette directive qui n'interdit les découverts. vous n'êtes vraiment pas au niveau de la rigueur qu'on est en droit d'attendre des représentants nationaux à l'Assemblée nationale. Vous devriez avoir honte. Cette directive n'interdit rien, elle ne rend rien non plus automatique. Reprenez la lecture, parlez à vos parlementaires européens, ils vous expliqueront pourquoi ils ont voté contre pour. Et moi, je vous explique pourquoi cette directive, elle vise à protéger les Français que vous cherchez à misérabiliser, à angoisser et au fond, à antagoniser. Merci, Madame la Présidente.
Ah là là, le dialogue de sourds entre le gouvernement et LFI.
Le gouvernement est terminé. Je suspends, on reprendra à 16h45. À tout de suite.
C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Les députés vont se dégourdir les jambes et reviendront dans 20 minutes pour entamer le débat en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une séance de gouvernement plus animée que ce que j'imaginais, tiens. Non, c'est vrai, il y avait de l'ambiance aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Faut pas que j'oublie. Vous m'y ferez penser dans le chat, mais je dois partir vite. Il est quelle heure ? Ouais, à 17h, je dois partir. À 17h, je dois partir parce que je vais à la mairie du 18e arrondissement de Paris pour animer une table ronde sur le numérique et la démocratie à l'invitation de la mairie du 18e. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Si vous voulez ramener vos gueules, venez. Ça commence à 18h30. C'est bonne ambiance. Et je ne sais pas si y aura un buffet après. Je suis désolé, j'ai pas l'info. Qu'est-ce que je voulais dire ? Séance de questions au gouvernement au cours de laquelle il y a eu pas mal de sujets différents qui ont été abordés. On a parlé des découvertes bancaires. Il y a eu plusieurs questions, notamment venues de la gauche sur les découvertes bancaires et une pétition en ce moment pour dénoncer une directive européenne. Et le gouvernement, par la voix de Roland Lescure, n'en démord pas. Merci Zébulon. Il n'en démord pas. Ce sont des fake news de la gauche. Cette directive ne prévoit absolument pas l'interdiction des découvertes bancaires. C'est ce que dit le gouvernement. Je n'ai pas le détail, hein, j'en sais rien. J'ai vu la pétition passer et je sais pas, faudra lire des articles de journaux qui devraient sortir dans les jours qui viennent. J'espère que des journalistes vont faire le taf d'aller checker tout ça et de nous tenir informés. Va falloir aller lire. Va falloir aller lire, hein, je suis bien d'accord, j'en sais rien, c'est un mystère, je sais pas. Métro Jules Geoffrin. Ouais, c'est ça. Il y a eu des questions sur Chine. Putain, il y a eu plein de questions sur Chine, hein. Chine, le BHV, Chine, les poupées pédopornographiques, pédocriminelles. Pas mal de questions, dégoût partagé sur tous les bancs de l'Assemblée nationale sur ce sujet, dégoût partagé par le gouvernement qui dit qu'il va réfléchir à mobiliser tout l'arsenal disponible pour lutter contre ces plateformes. Il n'y a pas que Chine en plus, et c'est un peu ça le problème. Le Monde dit que globalement, ça ne changera pas grand-chose en dessous de 200 euros de découvert, mais que les découverts supérieurs seront plus durs à obtenir. Ok. D'accord. Pourquoi lire les journaux quand tu as la capacité de lire les textes juridiques directement ? Mais vas-y, je t'en prie, rien ne t'en empêche. Étant facteur, je témoigne que Chine est un scandale à tout point. Ouais. Ouais, carrément. Je lis mon Picsou magazine si j'en ai envie. On en fait des caisses sur Chine, juste parce que pour une fois, c'est pas des Occidentaux qui en bénéficient. Ce serait une boîte occidentale qui vendrait des poupées des poupées pédocriminelles. Je te jure qu'on en ferait des caisses tout pareil. Hein. Alors, pour le coup, c'est franchement pas la nationalité le problème. Ah oui, l'autre truc aussi, oui, vous avez vu que les députés arboraient sur le revers de leur veste un petit pin's. Bleu rond, ça s'appelle un bleuet, c'est une fleur, c'est un bleuet qui s'appelle le bleuet de France et qui est à la mémoire des anciens combattants et qui est arboré autour du 11 novembre et du 8 mai pour les commémorations et vous pouvez acheter le bleuet de France, ça participe au financement d'actions en faveur des anciens combattants, de leurs familles, etc. Sachez-le et habituez-vous parce qu'à l'Assemblée début novembre et début mai tous les ans, ils mettent des bleuets.
Est-ce qu'on peut l'acheter sur Shein? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que Shein vend des bleuets de France? Je suis pas sûr que l'argent aille aux anciens combattants. Je sais pas, hein, mais... Du coup, qui a raison sur les découvertes bancaires? J'en sais rien, faut que je me documente. Faut que je regarde, il y a des journalistes qui ont visiblement déjà fait des articles, il y en a peut-être d'autres qui vont venir, et on en saura plus. La gauche a toujours raison. Sauf exception. Quelle différence entre une ordonnance et un amendement? Ça n'a rien à voir. Une ordonnance, c'est une modalité d'adoption d'une loi, alors qu'un amendement, c'est juste une proposition de modification d'une loi. Une ordonnance, c'est pas pour les médicaments. Si, si, aussi. D'après Le Monde, si t'as déjà un crédit à 33% d'endettement, t'es niqué pour avoir des découverts. Mais c'est nouveau ou ça existait déjà? Parce que ce qu'a l'air de dire Roland Lescure, c'est que en fait, il n'y a rien de nouveau pour ce qui concerne la France dans cette directive. C'est ce que j'ai compris de son argumentaire. C'est que c'est une généralisation aux autres pays européens de trucs qui existent déjà en France. Je ne dis pas que les règles existantes actuellement sur les découvertes bancaires sont des bonnes règles. Hein. Je me demande quels sont les changements induits par cette directive. Et pourquoi tout le monde l'a voté, cette directive? Si apparemment ça fait lever les boucliers partout, en tout cas en France, pourquoi tous les groupes du Parlement européen l'ont voté? Ce qui est nouveau, c'est l'aspect systématique et explicite. Ok. Donc c'est un truc qui se pratiquait déjà, mais de manière pas systématique et de manière pas claire. Je comprends pas pourquoi on a autorisé Shein à s'implanter sur le territoire. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais apparemment, il y a des gens dans le chat qui disent que Shein le BHV a renoncé à son partenariat. Mais je croyais que ça devait ouvrir aujourd'hui. Je croyais qu'ils étaient en train de mettre les articles dans les étalages et que ça allait ouvrir. C'est une vraie news ou c'est Ah non, c'est demain. C'est une info de chat ou les Galeries Lafayette rompent avec le BHV? Ça, je l'ai entendu dans l'hémicycle tout à l'heure. Effectivement, le ministre l'a dit. Mais il y a des gens dans le chat qui ont dit que le BHV renonçait à son partenariat avec Shein. J'en sais rien. Je sais pas, je regarde un petit peu là sur Le Monde, il n'y a pas d'infos. Le Figaro, ils sont sur autre chose. Je sais pas. Ouais, c'est faux, ils n'ont pas renoncé. Non, c'est toujours prévu pour demain, l'ouverture. Ok. Il y a une réflexion sur le renoncement, si j'ai bien compris. C'est un peu tard. Hein. Les mecs, ils sont commit. Hein. Enfin, on a vu le patron du BHV faire tous les plateaux télé pour justifier le partenariat, pour y renoncer la veille de l'ouverture. Peut-être, hein, j'en sais rien, je sais pas. Non, ce qui est sûr, c'est que le BHV, c'est vrai que le BHV est en difficulté économique terrible. Hein. Ça, on le sait, puis c'est pas nouveau. C'est en partie dû aux mutations des modes de consommation, où les gens vont moins dans les grands magasins pour acheter des trucs, ils commandent beaucoup plus sur Internet. J'ai entendu Rachida Dati, qui a dit que c'était à cause d'Anne Hidalgo qui a fait une piste cyclable sur la rue de Rivoli, qui a empêché les gens de venir en bagnole au BHV, et donc ça a tué le BHV. C'est la faute de la gauche. La gauche tue le petit commerce. Avec vos vélos, là. Si Rachida l'a dit. Pourquoi elle a dit ça en plus, Rachida? Pourquoi elle s'occupe du BHV? Elle n'est pas ministre de la Culture, elle? Ah, elle est peut-être aussi candidate à la mairie de Paris. Peut-être que ça explique. Ce à quoi la mairie de Paris a répondu qu'il y a eu une augmentation de fréquentation depuis la piste cyclable. Ah ouais? Ah ça, j'avais pas vu. C'est... ah ouais, il y a plus de clients au BHV depuis que c'est y a la piste cyclable qu'à l'époque où il y avait que des bagnoles. Ah bah... Non, ça marche pas. Non. Non, l'argument s'effondre. Quid des bijoux du Louvre? Est-ce que c'est à cause des pistes cyclables? Techniquement, la gauche, en mettant des pistes cyclables partout, fait de la prévention contre les cambriolages des musées, puisque c'est quand même vachement plus difficile de manœuvrer ton monte-charge pour le garer bien au bon endroit, avec tous ces vélos qui passent partout. Non mais, ça turbine là-haut. Hein. Bon, ils ont quand même réussi, mais... Ça dépend s'ils partent en scooter, c'est plus simple. Ouais, le T-Max. T-Max. Est-ce que vous croyez que le Louvre, dans le cadre d'une exposition d'art contemporain, dans les années qui viennent, va exposer un T-Max et une disqueuse? Moi, je serais artiste. Je proposerais un projet. Réflexion sur les événements et sur l'émotion. J'exposerai un T-Max. Bon, je suis pas artiste. C'est quand même dommage. Une nacelle dans le Louvre. T'imagines les prochains ouvriers du Louvre qui vont devoir utiliser une nacelle pour réparer un truc? Parce que je suppose que ça arrive souvent au Louvre, c'est quand même très très grand, il y a plein de trucs, il y a des fenêtres à réparer et tout. Les mecs qui vont arriver, voilà. Non, on n'est pas des cambrioleurs, on travaille vraiment ici. Hein. On vient juste réparer la fenêtre. Excusez-nous. Un T-Max et une disqueuse incrustée de bijoux. Ah oui ! Tu fais des petites incrustations de joyaux, de bijoux, dans la disqueuse. Et on a des idées, hein. Et on est créatif, hein. On n'a pas d'argent, mais on a des idées, hein. Ils vont faire exprès de fabriquer des échafaudages de fous juste pour éviter le chariot élévateur. Moi, je pense qu'il y a un trauma. Moi, je pense qu'il y a un trauma au Louvre sur tout ce qui est chariot élévateur, monte-charge et autres. Il n'y en aura plus jamais. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ils vont faire des échafaudages. C'est con parce que c'est moins pratique, mais... C'est déjà un disque en diamant sur les disqueuses. Bon, les disqueuses que t'achètes chez Brico Dépôt là, t'as des disques en diamant? On peut les voler? Comment ça se passe? Oui, revêtement diamant. Ah ouais? Poudre de diamant sur le disque. Oh. Comme vous le voyez, je suis un grand manuel. Hein. Moi, tout ce qui est travaux, etc., je m'y connais. Hein. La preuve. Voilà ça. Alors là, je suis un foutu de manœuvrer un chariot élévateur. Je suis un foutu d'utiliser une disqueuse. T'inquiète que je vais pas voler les joyaux de la couronne. Ça, vous pouvez me retirer de la liste des suspects. Non. Tes voisins, eux, oui. C'est vrai, ça, mes voisins avec la perceuse. Ça se trouve, c'est eux, les voleurs. Tu peux encore être commanditaire. Ah ouais. Ah ouais, je peux commanditer un casse au Louvre pour ma collection privée de bijoux napoléoniens. Je veux le diadème de la princesse Eugénie. Je sais même pas qui c'est. Et je suis prêt à mettre beaucoup d'argent pour le diadème. Pour le décor du stream. Ouais, exactement. Rends le bonjour à Éric Lejoindre, super maire. Eh ben, je ferai un bisou à Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement de Paris, de votre part. Et je lui dirai, avec vos pistes cyclables, vous avez tué le BHV. Malgré le génie et l'activisme de son PDG qui a voulu ouvrir Shein pour relancer la consommation. Comment va le chaton au fait, Jean ? J'ai plus de chat, c'est fini, j'ai plus de chat. J'ai plus de petit chat. J'ai un arbre à chat décoratif derrière qui ne sert à rien, à personne, pas même à moi. Je ne me fais pas les griffes dessus. Il ne sert plus à rien. D'ailleurs, faut peut-être que je le donne. S'il y a des propriétaires de chats sur Paris qui sont à la recherche d'un arbre à chat, envoyez-moi un message et puis on discute. Le petit chat Lego. Ah si, il est toujours là. Ah, attends, il est de l'autre côté. Il est toujours là, le petit chat Lego. Il est toujours là, le petit chat Lego. Il a pas bougé. Tout va bien. Il prend la poussière. Est-ce qu'il a trouvé un endroit où il se sent bien, le petit chat ? Aux dernières nouvelles, le petit chat avait une nouvelle famille d'accueil dans laquelle il était en essai. Donc on croise très fort les doigts pour que ça se passe bien et puis on lui souhaite le meilleur. Tu veux plus adopter de petit chat ? Non, j'ai fait une croix dessus. Je laisse tomber, c'est pas grave. J'aurai pas de chat, c'est pas le bout du monde. Dans une autre vie peut-être, mais là non, j'ai eu deux échecs, c'est bon, pas forcé le destin. Hein. Et le petit chat, il ronronne, il va bien. Pourquoi tu t'en es séparé ? Parce que au bout de deux semaines, trois semaines, chez moi, elle a commencé à avoir des trous de pelage dans la tête. Elle perdait des poils à des endroits très précis. Et du coup, j'en ai parlé avec la responsable qui me l'avait amené. On a décidé d'arrêter l'expérience, de la rapatrier et de voir comment ça allait. Et au bout d'une semaine, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave. on va pas forcer le truc, je vais pas la reprendre, même si elle va mieux. Elle était stressée. Non, elle avait pas l'air. Elle avait pas l'air plus stressée que ça. Mais peut-être qu'elle était stressée, hein. C'est peut-être le stress, effectivement, j'en sais rien. Ou alors c'est environnemental. Ça me fait chier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez moi, une substance, je sais pas quoi, qui est mauvaise pour les chats. Ou alors c'est moi, hein, c'est peut-être moi. Hein. Peut-être que les chats, ils sont allergiques à moi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui soient allergiques aux chats. Est-ce que ce sont des vraies plantes derrière ? Non. 100% des plantes vertes chez moi sont des plantes en plastique. Je suis un connard. D'une part, et d'autre part, ici c'est mon salon, mais c'est surtout une salle de tournage où je fais mes streams. Et du coup, j'ai les rideaux qui sont tirés tout le temps. Et donc, quand je suis pas en stream, il fait tout noir ici. Donc, en fait, des plantes, elles peuvent pas vraiment s'épanouir chez moi. Je vis pas dans la lumière. Donc, plantes plastiques. Voilà. T'es meilleur en cuisine, en jardinage ou en bricolage? aucun des trois. Non, en vrai, bricolage, je me défends un peu grâce à mon père qui m'a éduqué à ça. Quand j'étais petit, mon père, il m'a toujours mis un tournevis dans la main et il m'a toujours fait démonter des trucs. Et donc j'ai gardé l'habitude de faire des réparations moi-même, de réparer des trucs, déboucher des machines à laver, des éviers, des trucs comme ça. Donc un peu bricolage. Mais par contre, tu me demandes de faire des trucs un peu techniques en bricolage, vraiment, je sais pas faire. Hein. Je sais pas poser du placo, je sais pas poser... Après, il y a YouTube, hein, je peux apprendre. Est-ce que monter un ordi, ça compte dans le bricolage? Ça, je l'ai déjà fait. Monter un PC. Monter une tour, j'ai déjà fait. Bah, j'ai appris. Voilà. Monter un PC, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est impressionnant. T'as l'impression de manier des trucs ultra fragiles, sensibles, etc. Une fois que t'as appris, tu regardes une vidéo YouTube ou deux et tu comprends globalement où est-ce qu'il faut aller. Et en vrai, ça se fait. C'est pas le bout du monde. Si t'as les bonnes pièces, etc. et que tout rentre bien, ça se fait. Faut faire gaffe au processeur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le moment un peu sensible du truc quand tu poses ton processeur. En vrai, ça se fait, hein. Moi, je rénove une très grande maison tout seul, c'est du taf. Ah, mais j'ai beaucoup d'admiration. Hein. Les gens qui retapent des baraques tout seul, je suis giga admiratif. C'est très spectaculaire, bravo. C'est, ouais, GG, moi je serais incapable. Enfin, je serais incapable, toujours pareil. Ça s'apprend, tu prends le temps d'apprendre. Si tu poses les questions aux gens qui savent, tu finis par faire, hein. On l'avait reçu sur Euroguesseur, Aline Dessine, la youtubeuse Aline Dessine. Elle retape une baraque avec son mec. Moi, je vois toutes les évolutions sur Insta, là. À chaque fois, je suis en mode, putain. GG, hein. Ça, et faire atterrir un avion. Non, ça, je sais faire, ça. Faire atterrir un avion, je sais faire. Ça s'apprend. Dans 15 minutes, tu dois partir. Oui, c'est vrai, t'as raison, merci. Heureusement que t'es là. Avec des tutos YouTube, on arrive à tout. Mais oui! Vraiment, hein. Avec des tutos YouTube, on apprend à faire. Hein. Ça fait 9 mois que je suis sur ma baraque, quasi la fin. J'ai tout refait solo, c'est le bonheur de faire soi-même. Mais grave, non, mais je comprends 1000 fois. Hein. Je comprends 1000 fois, je dis GG, je tiens mon chapeau. Il y a vraiment des gens dans le chat qui savent pas faire atterrir un avion MDR. Nous, les vrais hommes, hommes alpha, on sait faire atterrir un avion, hein. C'est bon. Hein. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Oh là là, les mecs savent pas faire vraiment. Par contre, changer la couche du gamin. Exactement ça. Changer les couches, ah non, c'est technique, je sais pas faire. Atterrir un avion, je sais faire, ouais. Vrai homme sait retaper un avion et faire atterrir une maison. Non mais c'est moi je vous ai déjà dit, parce que je me souviens de cette trend, vous vous souvenez de cette trend, est-ce que les hommes savent faire atterrir un avion, avec des meufs qui demandaient à leur mec est-ce que tu saurais faire atterrir un avion, et les mecs ils répondaient tous ouais je pense. Et les meufs se foutaient de leur gueule en disant vraiment les mecs, vous avez vraiment honte de rien et tout. Et moi, du coup, il y en a plein qui m'ont demandé à moi. Et moi, je suis passionné d'aéronautique depuis que je suis tout petit. J'adore les avions. Je connais plein de trucs sur les avions. Je joue à Flight Simulator depuis que je suis tout petit. J'ai fait atterrir plein d'avions différents dans Flight Simulator, plein de fois. Et je suis bien placé pour vous dire que je serais totalement incapable de faire atterrir un avion dans la vraie vie. Non, c'est 1000 fois plus dur. C'est vraiment le... C'est l'effet Dunning Kruger. Ça doit être l'effet Dunning Kruger, effectivement. Je touche suffisamment du... Je touche suffisamment ma bille dans le domaine pour savoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les films, ça joue de ouf aussi. Mais bien sûr, les films, ça joue de ouf. Vous vous souvenez de James Bond qui monte dans un F-16 et qui le démarre et qui décolle? En costard, évidemment. Ouais, bouge pas. C'est... Bah ouais, effectivement. Et pareil dans le sous-marin. James Bond dans le sous-marin. Le mec, il est dans un sous-marin nucléaire et il le conduit comme ça avec une espèce de gros truc et tout. Il le fait plonger. Ça marche pas comme ça. Non, mais non. Mais bon, c'est les films, c'est la beauté du cinéma, remarque. Hein, ils nous font... Non, mais bon. Donc ça, à mon avis, ça a foutu dans le crâne, effectivement, de pas mal de mecs que... Non, mais globalement, ça doit se faire. Il ne faut pas une source externe pour démarrer un jet. Ça existe, bien sûr, les GPU, pour démarrer un jet. Mais maintenant, les jets modernes sont quasiment tous équipés d'APU qui leur permettent de démarrer de manière autonome. C'est pas la procédure basique, mais c'est faisable. Mais ça demande quand même une équipe. Enfin, je veux dire, c'est surtout pour des avions de chasse comme ça, etc. C'est pas juste démarrer un avion. C'est tout le briefing de préparation de la mission, le point météo, la connaissance qu'a le pilote sur le niveau de carburant qu'il a, sur l'armement qu'il a à bord, les objectifs de mission, ne serait-ce que les fréquences radio pour la communication. Enfin, c'est énormément de choses avant de mettre ses fesses dans l'avion, d'un avion qui a été préparé par des équipes au sol qui l'ont calibré, etc., qui ont fait plein de trucs. C'est pas comme dans GTA V, j'ouvre la verrière, je monte dans l'avion et je le démarre. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Même le check-up des différents organes avant le décollage. Alors, dans le cas d'une mission classique de décollage, etc., effectivement, le pilote, une fois qu'il a les fesses dans l'avion, il va faire un certain nombre de checklists. Il va vérifier plein de systèmes de l'avion. Donc, il y a plein de trucs qu'il va faire qui sont simplement des vérifications. Vérification des systèmes anti-incendie, vérification des systèmes d'armement, vérification des systèmes hydrauliques, vérification des commandes électriques. Il va checker plein de trucs. Alors, tu peux te passer de ces phases-là dans certains types de missions où tu dois partir très vite. Quand tu es en permanence opérationnelle, etc., ça peut arriver que tu démarres beaucoup plus vite l'avion, mais c'est prévu, c'est organisé, c'est voilà. Même les F-35, gros débat ici en Belgique, mais les F-35, c'est encore pire. Les F-35, tu dois checker les mises à jour des logiciels, tu dois vérifier la connectivité, tu dois checker les commandes électriques, tu dois être talonné dans un ordinateur, tu démarres un ordinateur littéralement. Et t'as plein de trucs à vérifier qui sont très techniques, très spécifiques, très particuliers, etc. Et les checklists sont très longues et c'est normal, c'est le boulot. Comment tu sais tout ça? T'as fait l'armée? Oui, j'ai été pilote de chasse dans l'aéronaval. D'abord sur Mirage 2000 et ensuite sur Rafale. J'ai été instructeur ensuite sur Rafale. Et après, j'ai quitté pour me lancer sur Twitch. Pourquoi vous rigolez? Je l'ai dit de manière très sérieuse. Hein. Ah, c'est marrant, moi aussi. Donc voilà. Hum. On rigole des plantes en plastique. Ah putain. Et j'ai arrêté à cause des ligaments croisés. Exactement, je me suis fait les ligaments, tu connais. Sors de ce corps où ça m'a amarre. Comment sont réparties les questions au niveau du nombre et de l'ordre? J'ai l'impression que ça change à chaque QAG. Ah bah merci de reposer des bonnes questions, parce que là vous racontiez n'importe quoi dans le chat. Hein. Comment sont réparties les questions? Alors l'ordre des questions, c'est un tourniquet, c'est randomisé, de manière à ce que ça soit pas toujours les mêmes groupes qui commencent, et ce que ça soit pas toujours les mêmes qui terminent. Voilà. Donc c'est randomisé, donc ça change à chaque fois, etc. Ensuite, le nombre de questions posées pendant la séance des QAG dépend de la taille du groupe des députés. Plus vous avez de députés, plus vous avez de questions. Seulement, comme là, on a un comme là, on a une Assemblée nationale avec 11 groupes, ce qui est du jamais vu, sous la Ve République en tout cas, il n'y a pas plus de 3 questions par groupe. Moi, j'ai connu des assemblées nationales où il y avait 5-6 questions par groupe. Hein. Enfin, c'est normal, il n'y avait que 2 groupes, non. Voilà. Donc voilà. C'était plus intéressant, les avions. Mais vas-y. Putain. Admettons qu'on ait une assemblée avec que des députés non inscrits. Comment ils feraient? Ben, ils se démerderaient. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas une blague. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale est libre de son organisation. Si l'Assemblée nationale veut déterminer une autre manière de fonctionner, elle se débrouille. Elle est libre de définir le nombre de questions, le nombre de groupes, le fonctionnement, le machin. Si on a une assemblée avec que des députés non inscrits, eh ben, ils se démerdent, ils créent un système soit de tirage au sort, soit de c'est le premier inscrit, premier servi. Voilà, ils se débrouillent en fait. Il risque d'y avoir beaucoup de frustration par contre, mais ça c'est leur problème en fait. Si les mecs ils ont décidé d'être non inscrits, c'est leur problème. Ils avaient qu'à faire des groupes, s'ils voulaient peser collectivement. Ça veut dire qu'un groupe tout seul, comme Pradier, il pose rarement des questions. Exactement. Les députés non inscrits, comme Aurélien Pradier, donc ils sont dans aucun groupe, eux, ils posent rarement des questions. Ils ont quelques questions par an et ils se démerdent pour savoir qui va la poser. Je trouve que les QAG ne laissent pas assez de discussion. Il y a une question, une réponse, mais pas d'apport d'arguments successifs. Parce que ce n'est pas le but. C'est une séance de questions. C'est une séance particulière qui sert à ça. Il y a d'autres séances à l'Assemblée nationale qui permettent aux députés d'apporter plus d'arguments et tout. Mais par ailleurs, j'attire ton attention sur le fait que ça peut vite tourner au dialogue de sourds. Et qu'il y a un moment, là, par exemple, cet après-midi, on a vu 3 questions au gouvernement sur les découvertes bancaires. On a vu 3 fois de suite le même ministre répondre exactement la même chose. Bon, le débat pour le débat, ça va 5 minutes. On a compris, on n'est pas d'accord, on ne se mettra jamais d'accord. C'est voilà, vous êtes d'opposition, on est le gouvernement, voilà, on s'engueule. Enfin, c'est pas la peine de faire des repris, de faire des répliques et des re-répliques et des contre-répliques. Je pense qu'on a globalement compris, quoi. Si tu pouvais changer la forme des QAG, tu ferais quoi? Moi, je ferais des questions citoyennes. Je ferais des séances de questions au gouvernement dans laquelle il y a 3 ou 4 questions qui sont réservées à des citoyens qui font le déplacement, qui vont à l'Assemblée nationale, qui proposent leurs questions sur une plateforme en ligne, par exemple le site internet de l'Assemblée, et les 6 autres citoyens peuvent voter pour les questions. Et les citoyens qui ont la question la plus votée sont invités à Paris à venir poser leurs questions au gouvernement qui obtiennent une réponse. Voilà. Et vous verrez que le jour où on fera ça, et ben les questions citoyennes, elles seront pas très différentes des questions au gouvernement. C'est les mêmes préoccupations, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui montent dans les circonscriptions, des sujets d'intérêt pour les machins, les Français et tout. Eh bien, très bien, moi, je suis très très pour qu'on ait Corinne, 57 ans, qui se lève, qui prend le micro, qui dit « Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie, je voulais vous poser une question sur les découvertes bancaires. » Voilà, très bien, c'est une très bonne question. Ça fera des questions de cons, mais au moins ça sera pas long, tout le monde verra que c'est con et on passera à autre chose. Bah écoute, je sais pas ce qui te permet de dire que c'est con, enfin je veux dire, si c'est des préoccupations citoyennes, je vois pas pourquoi ce serait con. Enfin, en plus, il n'y a pas de question con. Si t'as une préoccupation, tu la poses, tu argumentes, tu poses une question, c'est jamais con. Ah, il y a un message épinglé qui dit qu'à 17h, je dois partir. Mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer que je vais devoir mettre fin à ce stream. C'est la fin du temps de parole autorisé pour le streamer, conformément au règlement de l'Assemblée nationale. Je sens votre désarroi. Je sens votre désarroi, mais je vais quitter ce stream. Bon courage à vous. On se retrouve demain à 13h. Pour la reprise de la séance des questions d'actualité au gouvernement, pardon, les questions connes d'actualité au gouvernement. Et voilà, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, et passez une bonne après-midi, et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous.